Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Bonjour tout le monde, c'est Moguri et je vous parle actuellement par la pensée. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler principalement de JRPG. Bienvenue dans l'Hebdo Origami. Je saigne un peu, comme quand on utilise ses pouvoirs psychiques comme ça. Bienvenue tout le monde, bienvenue, c'est l'Hebdo Origami. J'ai utilisé peut-être un peu trop de MP, petite référence au sujet dont on va parler aujourd'hui, en début d'émission. Heureusement, on a réuni chez Origami un plateau de qualité aujourd'hui que je vais vous présenter dès maintenant et qui va m'aider à assurer cette émission tout du long de cette émission. Je ne sais pas parler. Comme je vous l'ai dit, j'ai cramé tous mes MP. On commence par Médoc ici. Comment ça va, Médoc?
Ça va et toi?
Ça va. Tu vas mieux que moi, apparemment.
Là, tu fais des vannes de début de stream.
Je fais des vannes de début de stream.
C'est bien.
Je m'inspire des plus grands.
C'est bien, c'est très bien. Ça va, ça va très bien. Merci, merci de m'avoir appelé pour venir pour dire les vraies choses.
Ouais, super. On va passer aux vraies choses dans pas très longtemps. Il y a aussi, évidemment, Héloïse. Comment vas-tu, Héloïse?
Bah, très bien, écoute.
Ouais.
On m'a dit, viens parler de JRPG. Je dis, mais j'ai joué à deux JRPG.
Ouais.
On m'a dit,
ok. Ce à quoi j'ai répondu, tu m'as embarqué dans ton émission e-sport. Il n'y a pas de raison que je t'embarque pas dans mon émission
voilà.
JRPG.
C'est une punition. Bonjour, c'est je suis là, je suis obligée d'être présente.
Sous la contrainte. Kevin Bitterlin, comment vas-tu?
Eh bien, ça va.
Ça va. Merci beaucoup d'être ici.
Oh, mais de rien.
Ça fait plaisir.
On m'a juste dit qu'il fallait pas rire à ton départ en fanfare.
Et t'as pas réussi.
Mais en même temps, j'ai ton plus grand fan juste à côté. Et c'est difficile, tu vois. C'était très difficile.
Non, mais la vanne est-tu?
Pas mal. Et enfin, Atomium, comment vas-tu, Atomium?
Alors, du coup, fatigué. Mais ouais. Ça va très bien.
Ça va très bien.
Ouais. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir sortir de ce sujet qui, évidemment, me parle beaucoup.
Ben oui.
Les gens sont-ils au courant ou
que l'on parle de JRPG? C'est, je l'ai mentionné, je crois, par la pensée au début. Il me semble. Je sais plus moi-même.
J'avais dit que je suis fatigué, j'ai pas menti. Sur la marchandise, c'est effectivement le cas. Voilà.
Bah, merci beaucoup à tout le monde d'être autour de ce plateau. On va effectivement parler de JRPG, un vaste sujet. On va parler aussi d'autres choses, comme par exemple de notre page Patreon qui est ouverte depuis maintenant certain temps, qu'on vous invite à aller visiter si le cœur vous en dit, et qui servira, on le rappelle, à faire perdurer Origami sur la durée. C'est en grande partie sur ce Patreon qu'on s'appuie pour continuer ce média. Donc si ça vous plaît, faites-y un tour, ce sera très gentil. On prend aussi les sub Twitch, on prend aussi les virements personnels directement, point d'exclamation RIP sur le chat.
Les tickets resto.
Les tickets, on prend tout. On est à un stade où on prend tout.
Les vieux JRPG en édition française,
les
très
vieux
rares.
Qui peuvent coûter un certain prix.
Les jeux 3DS9.
Effectivement, on prend tout ça. On va donc effectivement parler de JRPG, mais pas que, parce que c'est le principe de l'hebdo d'Origami. Mais avant ça, on n'aura pas de rubrique invitée comme on a pu la voir à proprement parler jusqu'ici. Donc j'aimerais un petit peu, avant de commencer à proprement parler, m'adresser un petit peu à vous deux qui êtes les invités de cette émission pour vous présenter au cas très improbable où certaines personnes ne vous connaîtraient pas. Kevin Bitterlin, tu es donc rédacteur en chef du magazine JV.
Oui.
C'est ça. Pour l'instant, mes sources sont.
Pour l'instant, franchement, tu vois, là, c'était limite un interrogatoire. Tu vois, j'ai dit oui, ça m'a stressé. Quoi. Mais tout à fait,
rédacteur
tout à fait.
Chef,
dont le numéro 104 arrive incessamment et que nous avons annoncé il y a
et
très peu de temps.
Et qui fête, comme on le voit, les 10 ans du magazine.
Eh oui. Alors, c'était effectivement les 10 ans et un mois, mais étant donné qu'on est toujours à la bourre, même notre anniversaire, on le fête un peu à la bourre. Et pour l'occasion, on s'est dit que. On allait reprendre
Tous les jeux qui sont sortis depuis la création de JV,
ouais.
Et essayer de faire une sorte de tournoi très très infantilisant et en même temps très régressif et très très vénère.
Ouais.
Et
donc, très bien traduit par la couve par Oprime, hein, c'est ça?
C'est Oprime, ah, ouais.
Trop fort.
Donc grand fan de boxe dans l'éternel à qui on a demandé de faire une couve qui fait du catch. Donc forcément il était un peu circonspect au
bon
début.
Enfin.
Et mais du coup quand on voit notre mascotte un peu ainsi masquée, ouais. Non la couve est top.
La couve est très cool.
Et puis ouais.
Et donc ce duel,
c'est un gros
de,
duel. Ouais.
C'est un gros duel, ouais, c'est ouais. Ça. Un duel à 100, faudrait trouver un nom pour ouais. Ça. Des jeux sortis depuis la naissance de JV prend l'essentiel de ce numéro 104.
L'essentiel non, ça, je pense que ça doit prendre un tiers, peut-être même un quart.
Ouais.
L'idée c'était, bon, forcément, ce sont des jeux dont on a déjà beaucoup parlé,
bien
donc
sûr.
On n'allait pas refaire une review a posteriori. Mmh. Non, c'était plus l'idée de justement de les mettre en compétition et de s'interroger nous-mêmes en tant que journaliste sur tu prends deux jeux, lequel te donne tout de suite un souvenir, une émotion particulière,
ouais.
Et c'est un peu comme ça qu'on a essayé de construire notre top, sachant qu'en parallèle on fait aussi appel à la commu,
ouais.
Pour qu'un autre jeu, peut-être, soit élu jeu de la commu sur cette période de 10 ans,
ouais.
Pour
vous
voir
êtes
un peu s'il va y avoir...
responsable du jeu,
oui.
Parce que vous aimez à dire... Vous aimez. Bon, on aimait à dire.
Mmh.
Vous seriez-vous connu dans une vie entière,
ouais, peut-être. Que oh, le top de la commu, c'est le top de la commu. Mais au bout de 10 ans, à leur dire tel jeu est cool, tel jeu est pas cool, il y a une responsabilité.
Mais non, mais les gens ne nous lisent pas, manifestement. Vraiment, à chaque fois qu'on dit du bien d'un jeu, on va nous dire non, mais arrêtez, machin. Et... Non, je pense qu'il y aura vraiment des différences entre justement
entre
ce qui est plébiscité par,
ouais.
Par la rédac et ce qui est plébiscité ouais. Par les lectrices et lecteurs. Quoi.
Ok, c'est en rigolo. Kiosque lundi, c'est ça
lundi ou mardi, mais en tout cas, ça part en tout cas, là très vite chez les abonnés. Dans le week-end là,
ouais.
et sinon il est déjà possible de le commander si jamais on le trouve pas en kiosque sur notre site.
D'accord, très bien, donc JV numéro 104. Je me tourne vers toi Atomium,
oui.
Tu es donc comment tu te définirais, je sais jamais si on doit dire youtubeur, vidéaste, streamer, dans ces cas là
j'aime
je
pas
sais
trop
pas.
Ces étiquettes,
ouais,
mais
j'imagine,
on va dire
ouais.
Juste bah ouais,
créateur de
vidéo
sur internet, ouais.
Ouais c'est ça, en ouais. Gros l'idée c'est de parler de jeux vidéo de plein de façons différentes,
ouais.
Et
là
donc...
on diffuse un peu ta dernière vidéo en date je crois sur ta chaîne principale sur YouTube,
ah, yes.
Dans laquelle tu explores justement, c'est lié au sujet d'aujourd'hui.
Vous prenez un risque de droit d'image. Par contre,
oh,
vous
oui.
Dites tout de suite
on
parce
s'est
que
déjà
j'ai
fait démonétiser
mis...
tellement des blogs.
Ok, bon, très bien, ça va, parce que ouais, c'est galère. Mais ouais, en gros, mon activité principale, celle qui en tout cas me plaît
ouais.
Le plus, c'est effectivement un format qui s'appelle Vue Subjective.
Ouais.
Et l'idée, c'est de faire de la critique avec quelques guillemets de jeux vidéo, parce que
mm-hmm.
C'est à mon échelle. Et l'objectif, c'est surtout d'essayer d'aller un peu déterrer des choses, quoi. C'est-à-dire
ouais.
Faire découvrir aux gens qui connaissent pas des séries comme Zero Escape récemment.
Mm-hmm.
Là, j'avais fait Star Ocean parce que le 2 arrivant,
ouais.
Je voulais faire le 1. Donc, égoïstement, j'ai fait.
Que tu as découvert pour l'occasion ?
Ouais, c'est ça, mm-hmm. J'avais pas fait. Et bon, au final, j'ai regretté, j'aurais dû faire la version Super Famicom. Bon, c'est grande,
oui,
grande histoire.
Peut-être, effectivement.
Mais sinon, ouais, j'avais fait Tactics Ogre aussi à une époque. Et puis là, dans les trucs à venir, je voulais aller sur Snatcher, par exemple, tu vois, qui sont
ah,
des
ouais.
Vieux jeux.
Okay.
Donc,
bah, y a un truc qu'on retrouve aussi dans tes streams, si je me trompe pas, et que
ouais.
Que je kiffe pas mal personnellement, c'est ce côté s'il y a un vieux jeu, enfin qui est pas du tout dans l'actu, ou une vieille série que j'ai décidé de faire, de
ouais.
Découvrir à ce moment-là, je vais la streamer maintenant, et,
ouais, ouais,
et
ouais.
C'est toujours intéressant, je trouve, de redécouvrir des trucs plus vieux comme ça, quoi.
Bah là, vous en avez beaucoup parlé, j'imagine, mais bon, l'actualité a été saturée
ouais.
Avec plein de très grosses sorties, et c'est vrai que j'ai eu une espèce de, ouais, de saturation globale après FF16, dont on parlera peut-être. Et en gros,
enfin, je
ouais,
sais pas, puisqu'on est censé parler de JRPG.
Ah.
Pardon,
ça commence,
ce sera pas
ah, ça
seule.
Commence.
Voilà,
je l'aime si fort.
Première à l'antenne, hein, parce que.
Première à l'antenne, oui.
Oui. T'as été moins poli tout à l'heure, quand même. Mais bref, mais du coup, ouais, j'ai esquivé de ces trucs-là, effectivement,
ouais.
Et ouais, je suis allé sur des vieux trucs, parce que
ouais.
C'est bien, quoi. Enfin, puis même, je trouve que les gens, il y a un vrai intérêt pour ça aussi.
Ah oui,
c'est-à-dire que dès l'instant
ouais.
Où on sort un petit peu de l'actualité, on se rend compte que tout le monde a un petit peu son jeu de l'enfance, des choses
ouais.
Comme ça.
Mm.
Et puis, ouais, les, je sais pas, les jeux niches, c'est toujours marrant.
J'aime bien aussi, ouais, ce côté
ouais.
Se libérer de l'actu et tout.
Ouais.
On peut voir aussi régulièrement des streams où tu te fais un peu le, comment dire, pas l'avocat, mais où tu vas aller vraiment... voir un peu ce que c'est que de créer un jeu vidéo,
ouais.
Surtout en petite équipe et tout ça, de ce que c'est que la création de jeux vidéo dans ces rouages réel, et je trouve ça assez cool aussi.
Ouais, c'est un peu la deuxième truc. Quoi. Ouais, c'est ça. L'autre chose, c'est de parler de création de jeu. J'ai un format aussi pour ça, mais qui est en pause, donc j'en parle pas trop.
Ouais.
Et ouais, l'idée, c'est que je suis en train de faire mon jeu à l'heure actuelle. Donc effectivement, j'ai rencontré plein de gens comme vous, voilà, dans ce milieu-là et tout ça. Et donc ça donne envie de donner la parole en fait aux gens qui font, et puis de donner un petit peu ce truc-là, quoi, de montrer comment les choses sont faites.
Très bien. Et bah écoutez, merci encore une fois à vous deux d'être ici. Médoc, Héloïse, je vous présente pas. Hein, vous êtes à la maison.
Oui.
On est d'accord.
Et je vais commencer à mettre.
Très belle casquette, cela dit. Ouais.
Merci.
Une casquette RPG, hein, d'ailleurs.
Ah,
également.
Ça, ça va être une des questions tout à l'heure.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, comme on le disait, on va parler de jeux vidéo et en grande partie de JRPG, mais pas que. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est l'actu. Puisque c'est désormais la coutume, on va commencer par un petit flash news et c'est toi qui t'y colles aujourd'hui, Héloïse.
Ouais, ouais.
T'es prête pour un flash news ?
Je vais débiter, mais à une vitesse incroyable. Non, c'est faux. C'est faux.
tu vas Eminem ça ?
Arrêtez, vous mettez la pression.
Il n'y a aucune pression à avoir parce que tu vas très bien t'en sortir, j'en suis sûr. Et il me semble que pour commencer, on a
j'ai
eu pas mal de...
J'ai récupéré les compliments, c'est bon.
Ah, bah, alors, par contre, t'as cramé mon premier lancement, donc c'est un petit peu dommage.
Tu veux que je m'auto-lance, du coup ?
Non, je vais te relancer. Il me semble que pour commencer, on a eu pas mal de dates confirmées ces derniers temps.
Bah oui, il y a une date qui tombe quand même bien parce que c'est aujourd'hui. Il y a la PlayStation 5 Slim qui était... hier, on nous a dit... Enfin, il y a quelques semaines, on nous a dit ça va sortir... courant novembre, et du coup, hier, on nous a dit, en fait, c'est demain. Donc, voilà, c'est sorti. On a eu plus de précisions, elle est disponible aujourd'hui en France, ça a été publié dans un communiqué de Sony, elle est plus petite, donc, pour vous donner, vous rappeler un peu ce que c'est que cette Slim, plus petite, dotée d'un plus grand espace de stockage, et elle va petit à petit commencer à remplacer la gamme actuelle. Elle est cependant un peu plus chère, puisque c'est plus 50€, je crois, que la PS5 classique sortie en novembre 2020. Donc, il faut compter 549€ avec le lecteur de disque et 449€ dans sa version sans lecteur de disque. Une autre date, c'est The Last of Us Part 2 Remastered. On a enfin une date pour ce jeu qui a été annoncé du coup samedi dernier. Ce sera le 19 janvier 2024. Donc pour ceux qui ont la version PS4, ce sera 10€ de plus pour pouvoir avoir accès du coup à cette version-ci sur PS5.
Pour faire l'upgrade en fait PS5.
Exactement.
Quoi, c'est ça,
ouais. Sinon, on ne connaît pas du tout pour le moment le prix du jeu. Si on n'a pas cette
le
version.
Le jeu seul, c'était... Ouais, c'est ça.
Le jeu seul.
On peut imaginer un prix de jeu PS5, non ? J'imagine.
Bah oui, ouais, j'imagine. Bah oui, oui, oui. Ouais. On va pas s'y risquer pour le moment, mais on peut penser à
ça. On peut imaginer ça, ouais.
Voilà, c'est une version remasterisée donc au niveau des graphiques, mais il y a également d'autres petits éléments qui ont été ajoutés, notamment un mode roguelike qui s'appelle No Return. Ouais, tu peux faire cette tête.
Ah
Nelly.
Bon
d'accord. Ouais, qui s'appelle No Return. On va pouvoir incarner en fait des personnages qu'on n'a jamais incarné dans la série. Et ça va être des systèmes de rencontres du coup aléatoires. On va pouvoir se foutre sur la gueule gaiement, voilà, tout simplement.
Gaiement plus ou moins, puisqu'on parle de The Last of Us 2, qui est pas un jeu ultra gay de base.
Ouais, non. Mais peut-être que ce mode-là.
Peut-être que là, il y aura du fun.
des scènes coupées aussi avec des commentaires des développeurs, donc des scènes qui sont pas finies, mais où on va pouvoir un peu voir ce qui a été coupé dans le jeu sorti en 2020.
Trop chouette.
Ouais, ça va être sympa.
J'aime bien en plus tout ce qui est contenu, genre commenté et tout. Tout ça, c'est toujours assez précieux, je trouve, dans le jeu vidéo d'avoir ça. C'est assez chouette.
Ouais, et très bien. On passe à la suite.
Hein. Ouais, bien sûr.
On a entendu aussi pour la première fois parler, en plus on a lu, de Subnautica 3. C'est... Ouais, oui. Je sais,
t'es en train de faire un médoc depuis tout à l'heure.
Non, mais parce que je fais exprès de pas suivre. Enfin, je fais exprès. Je suis pas trop l'actu. Et du coup, pour ce genre de moment.
Ouais, bien sûr.
Je connais quelqu'un qui va m'annoncer quelque chose qui va me plaire.
Non, mais j'ai fait ce flash news pour toi, en fait.
C'est gentil.
Non, c'est en fait dans un document qui était destiné aux actionnaires, mais qui était public, qui a été publié par Krafton. Qui a été repéré par des journalistes de Rock Paper Shotgun. Donc, Unknown's World travaille sur un nouveau Subnautica et ce serait prévu pour le premier semestre 2025. Donc, on va devoir un peu attendre. Ouais. Calmez-vous, on n'a pas plus d'infos à ce stade. C'est une grosse semaine pour l'éditeur coréen, puisqu'on a entendu aussi parler de Inzoi, le nouveau jeu de simulation de vie, qui voudrait du coup venir concurrencer directement les Sims. Et ça commence à en faire beaucoup sur le terrain.
Des concurrents des Sims, c'est ça ?
Ouais,
effectivement. Alors moi, j'ai été surpris dans le conducteur de voir Subnautica 3 parce que j'avais pas capté que le Below Zero était considéré comme le 2. Pour moi, c'était juste un DLC.
Je viens de faire la remarque.
Ouais. Alors qu'en fait, ça avait toujours été le cas.
c'était un standalone, je crois. Enfin, okay, ouais, c'est vraiment présenté comme ça. Quoi, mais, okay, okay. Mais c'est vrai que moi aussi, ça me surprend qu'il l'appelle comme ça.
Enfin, il l'appelle, c'est peut-être juste en interne, mais il y aura un nom.
Oui, très certainement. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Il me semble que tu as quand même encore quelques autres dates à nous communiquer.
Ouais, j'en ai encore deux. Très rapidement, du coup, à la sortie d'Early Access, Against the Storm, qui est donc le City Builder Dark Fantasy Roguelite. Qu'on peut voir du coup sur ces images, qui sort du coup d'Early Access le 8 décembre. Et on a un report du côté de Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui est décalé du coup pour le deuxième semestre 2024. Il était initialement prévu pour fin 2023, puis pour février 2024. Ce sera finalement le deuxième semestre 2024.
Très bien.
Donc pour peaufiner et garantir la meilleure expérience possible, Dixit Focus, peut-être aussi pour les bilans financiers.
C'est possible aussi, on ne s'avancera pas là-dessus, mais c'est tout à fait possible, effectivement. Les dates, cela dit, c'est bien, les chiffres, c'est mieux, du moins, je trouve. Quelques chiffres pour différentes sorties récentes, il me semble.
On va d'abord commencer par l'e-sport, parce que je sais que tu adores ça.
Il l'a rajouté au conducteur.
C'est ça, personne ne pense.
Ah, tu veux que je vienne dans ton émission chez RPG ?
Ça va finir par être toute l'actu.
Elle a hijacké l'émission.
C'est ça.
Non, il y avait, on vous en avait parlé la semaine dernière, les Worlds of League of Legends, record d'Audima pour l'e-sport. 6,4 millions de spectateurs en direct pour cette compétition. Donc, on vous disait la semaine dernière que c'était l'équipe chinoise de Weibo contre l'équipe T1 coréenne. Et c'est l'équipe T1 coréenne qui a gagné avec le mid laner Faker dont vous parlez, qui fait des roulades.
Qui fait des roulades,
si vous vous souvenez. Cette fois, on n'en a pas eu. Donc, toujours...
Qu'est-ce que c'est que cette célébration?
Ça, c'est l'e-sport après. Hein.
le précédent record, il était établi par un jeu mobile qui est Free Fire, Garena Free Fire, qui est un jeu... Ouais, donc c'était en 2021, les Free Fire World Series à Singapour. Donc, toujours énormément, évidemment, de prudence sur ces chiffres, parce que c'est pas un organisme indépendant comme Médiamétrie qui s'en occupe, c'est l'éditeur, c'est Riot Games qui a communiqué ces chiffres. Donc, restons prudents.
Bien sûr. Bravo l'e-sport.
Bravo l'e-sport.
Il y a aussi donc Sony qui a sorti quelque chose très récemment.
Il y avait la PlayStation Portal qu'on vous a montré du coup il y a deux semaines. C'était la semaine dernière. La semaine dernière qui a été sold out, rupture de stock en deux jours. Merci les scalpers. On peut le retrouver actuellement à 350 € sur le bon coin.
Yes, un très bon plan.
Un très bon plan.
Et enfin, je crois qu'il y a un certain Robocop Rock City qui est plutôt qui fait un lancement pas dégueulasse.
Meilleur lancement de l'histoire pour Nekon quand même.
C'est vrai.
Meilleur lancement de l'histoire pour les. C'est l'éditeur qui s'est congratulé du coup via un communiqué pour expliquer qu'il avait réussi à réunir 435 000 joueurs en deux semaines et qu'il avait récolté 92% de reviews positives.
Merci le stream du French YouTuber Gotos, évidemment. Hein, qui a été fait sur cette chaîne.
Et dispo en replay sur notre chaîne.
Bien sûr, sur notre chaîne. cela dit, alors que Sony compte visiblement les billets du PS Portal, des consommateurs et consommatrices pourraient être traîner la boîte en procès au Royaume-Uni, j'ai bien compris.
Ouais, c'est une affaire assez intéressante qui avait été lancée en août dernier. C'était une association de consommateurs et de consommatrices de Grande-Bretagne qui avait commencé à porter plainte contre Sony pour... On va lire ça parce qu'il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi. Pour avoir profité de sa position dominante de vendeur sur sa console, pour surfacturer les joueurs et joueuses sur les achats en ligne. Et notamment, c'est les 30% du coût de commission qui sont pointés du doigt. Donc ça, c'est assez étonnant. Si la plainte elle avait été gelée à l'époque pour voir si elle était acceptable, elle a été donc acceptée hier par le tribunal britannique. Donc, si la plainte aboutit à une condamnation, Sony pourrait être contraint de rembourser l'équivalent de 5,9 milliards d'euros. Donc, ça fait une grosse somme.
Une certaine somme. Ça fait quelques PS Portal.
Ouais. Et si vous commencez à vous dire, mais nous, comment ça se passe? Eh ben non, c'est que pour la Grande-Bretagne.
Il y en a toujours que pour eux, de toute façon.
Ça concernait la hausse du PS Plus Premium, etc.
C'est en partie ce qui est montré du doient, mais c'est surtout les 30%. Ils sont en mode, mais vous avez une position dominante sur votre console. Les achats in-game, c'est 30%. Aussi, au bout d'un moment, stop. Donc voilà. Donc à voir si ça aboutit, évidemment, ça va être long.
Oui, parce que là, pour l'instant, on est au début de la procédure.
Tout
on sait
fait.
Pas du tout
là,
ce
la
que
plainte
ça va
vient d'être acceptée, en fait, comme étant une plainte valable. Donc on est vraiment au tout début.
Peut-être le nouveau gagne-pain de Gotos, qui, après le rachat d'Activision, se retrouve un petit peu démuni.
C'est ça.
Rien à voir, mais récemment, moi j'utilisais mon VPN argentin pour des raisons qui ne regardent que moi. Hein, je vais pas me justifier de ça là-dessus. Et j'ai cru remarquer que les prix flambaient un petit peu sur Steam. Comment ça se fait ?
Ouais, en fait, en octobre dernier, Valve avait annoncé que face aux fluctuations du coût de la livre turque et du peso argentin, ils allaient en fait commencer à poser le prix des jeux sur le dollar américain. Parce que c'était, et Valve avait annoncé que c'était trop compliqué pour les développeurs de changer systématiquement en fait les prix pour que ce soit vendu à un prix acceptable de leur côté. Donc c'est chose faite depuis le 20 novembre. Gros problème, bah, c'est que ça fait quand même beaucoup grimper les prix. Donc à titre d'exemple, Stardew Valley qui a grimpé de 2900%.
Ça fait un certain nombre de pourcents.
Ouais, ça fait un certain nombre de pourcents.
Donc là, on parle de quand tu dis qu'il a augmenté, on parle d'augmentation en Turquie et en Argentine.
Alors là, pour le coup, Stardew Valley, c'est en Argentine.
D'accord.
Les Argentins, les joueurs argentins se sont beaucoup mobilisés sur Reddit pour expliquer que pour eux Steam c'était mort, etc. Et ce qui est normal vu la hausse des prix.
Non, mais là il y a les soldes d'automne en ce moment, il y aura peut-être une réduction de 2400%.
Non, ouais, on a eu à Stardew Valley, c'est un cas assez isolé, assez, mais ouais. On a eu quand même Far Cry 5 qui a augmenté de plus de 240%.
Okay.
Donc ça commence à faire. Il y a des augmentations qui sont générales, pas forcément sur ce genre de nombre, mais ça reste quelque chose, une tendance générale qui a suscité beaucoup de mécontentement chez les joueurs turcs et argentins.
D'accord, bon, on espère que ça va s'arranger assez vite pour eux. Une actu très Atomium compatible.
Ah ouais,
si là, je me trompe
j'ai
pas.
Vu le truc, ouais. C'est bon.
La prochaine. Oui, ouais, c'est ça. C'est on parle de Game Maker, là, je crois. Hein.
Bah ouais, on parle de Game Maker qui profite un peu de la déchéance du grand Unity pour se positionner.
On parle donc d'un logiciel de,
pardon, ouais,
de création de jeu.
Ouais.
C'est ça
qui est racheté
que tu utilises, toi.
Oui, c'est celui de mon
jeu. Je crois que tu me demandais à moi.
Tu pourrais aussi.
Mais tu pourrais l'utiliser aussi.
Ouais, je fais ça de temps en temps.
Mais
en fait, j'ai créé un petit jeu. Non, c'est faux. Racheté en 2021, du coup, par la boîte derrière le navigateur Opera. Mm-hmm. Donc, le moteur de jeu, principalement 2D, du coup, Game Maker, tente de tirer un peu son épingle du jeu en proposant maintenant... Avant, c'était des abonnements, en fait, qui étaient mensuels ou annuels. Donc, ça allait de 4... Il y avait une version gratuite. Et ça allait ensuite de 4 à 68 euros par mois. Et l'entreprise a annoncé désormais que ce serait... un achat unique de 100 euros et que de nouvelles fonctionnalités aussi seraient ajoutées pour les jeux non commerciaux pour lesquels la licence est gratuite. Donc tout ça sans manquer de glisser un petit tac là, Unity.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire.
Évidemment.
Ouais, en fait, c'est aussi parce qu'il y a d'autres boîtes qui l'ont fait, notamment Construct, qui est un peu l'opposant en 2D. Et en gros, leur deal, c'est surtout de dire que si tu fais des jeux non commerciaux, notamment pour tout ce qui est Game Jam et tout ça, donc en tant qu'hobbyiste, l'export n'est plus fait avec une licence obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'avant il y avait la licence qui, en gros, on pouvait faire développer gratuitement machin, mais dès qu'on veut exporter il fallait payer. Et là maintenant c'est plus le cas. Donc pour les jeux de Game Jam c'est un truc de fou.
Et pour les écoles
et
aussi.
Et pour l'apprentissage, pour les écoles, pour plein de raisons comme ça. Et en fait c'est un très très bon moteur de jeu, surtout 2D comme tu l'as dit, parce que la 3D c'est plus des magouilles de prog. Mais c'est une trop bonne nouvelle.
Il y a eu des petits tacles et tout, c'était bien senti. Ils sont bien positionnés là où il fallait, quoi.
Ouais de fou, mais comme Godot aussi un peu.
Ouais. Oui effectivement, Godot. Disons que oui, il y a quelqu'un qui a qui a eu des décisions un petit peu malheureuses dans ce milieu-là, les autres en profitent un petit peu. Ça rend le tout plus ouvert et plus accessible, je pense que tout le monde sera content. Une actu très monde compatible, hein, je crois, vu qu'on va parler de culture sexiste chez Game Science.
Ouais, tout à fait. C'est l'occasion de faire une petite annonce. Pas de licenciement cette année.
C'est vrai.
Cette semaine, pardon.
Cette année,
tu t'engages.
Pas de licenciement cette semaine, en tout cas des licenciements connus.
Ouais, après, oui, il y en a peut-être eu, mais on n'a pas d'actu licenciement en tout cas.
Et c'est la première fois depuis le lancement
d'Origami, c'est vrai.
Voilà, donc
c'est vrai. Dès que Gotos n'est pas sur le plateau, hein, t'as vu.
Ouais. Donc pas de licenciement.
Parce qu'il a été viré, justement.
Merde. Le fossoyeur, fossoyer.
Mais du sexisme un peu.
Quand même.
Parce que sinon, on rigole pas. Oui. Donc on va se tourner du coup vers la Chine. Il y a un papier d'hygiène qui est hyper intéressant qui est sorti, qui montre du doigt, en fait, Game Science, c'est le studio derrière Black Myth. Wukong, que certains ont pu tester à la Gamescom, je crois, ou c'était un trailer Gamescom 2023.
En tout cas, cet homme-là ne l'a pas testé a priori.
Pas du tout.
Et donc sur Hygiène, les journalistes Rebecca Valentine et désolé pour la prononciation, Ki-Hoon Chan, font le récit d'une culture d'entreprise sexiste qui reflète celle de l'industrie chinoise en général. Il y a un gros focus sur ce qui se passe actuellement en Chine. Donc le studio, il a été fondé par des anciens de Tencent, multiplie via ses développeurs et notamment ses cofondateurs les sorties sexistes en rapport dans la communication en fait, du jeu directement sur les réseaux sociaux chinois. Des sorties qui sont souvent pardonnées par ce que représente en fait Black Myth, qui est une chance incroyable pour le jeu vidéo chinois de s'inscrire au milieu des AAA l'année prochaine, ce qui est prévu du coup pour 2024. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite et si vous lisez en anglais, je vous invite à aller jeter un coup d'œil du côté du papier d'IGN. Qui doit être glissé dans le chat actuellement.
Qui doit être glissé dans le chat normalement grâce à l'excellente modération.
Merci
qu'on remercie à nouveau. Et enfin, bon, t'as eu ton actu, une actu spéciale Atto. Mehdi a eu 2-3 actus qui lui ont parlé. On a une actu pour tout le monde avec le sexisme malheureusement. C'est l'heure de l'actu pour Kevin Bitterlin. On va parler de Star Wars.
Oui, on parle de Star Wars.
Ça me va droit au cœur.
Écoute, ça fait plaisir.
Une toute petite actu, juste pour vous dire qu'on fait un petit saut en arrière, 17 ans en arrière en fait, pour parler de Star Wars Empire at War. Pourquoi ? Parce que le RTS vient de profiter d'un patch 64 bits pour mieux tourner sur les consoles. Donc je sais que ça fera plaisir à plein de personnes, donc voilà. Des amis à moi, donc j'en profite pour leur dire.
Très bien. Très bien, toujours cool moi je trouve de voir des jeux comme ça
mais oui,
qui datent, qui ont des supports, c'est un support officiel là qui
ouais,
est fait par
toujours,
l'équipe.
Ouais, c'est toujours du coup Petroglitch Games qui était à l'origine du jeu en 2006, donc ouais.
C'est cool ce genre de... Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu aurais pas enfin, pour conclure cet excellent Flash News, un petit point sur les sorties de la semaine s'il te plaît?
Oui, bien sûr, j'ai ça. On va parler de rétro, hein, beaucoup de rétro, parce que cette semaine c'était un peu que de ça. Donc du rétro avec Irem Collection volume 1, du 2D shooter en veux-tu, en voilà, et pour faire plaisir à tout le monde, c'est dispo dans 3 versions. Arcade, NES et PC Engine. C'est dispo sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et Xbox One depuis le 21 novembre. On a aussi encore du rétro avec Jurassic Park Classic Games Collection que vous avez pu voir ce matin en stream sur la chaîne d'Origami qui a beaucoup fait rire Gotose.
Effectivement.
C'était, on pouvait pas se concentrer en fait. On était en train de travailler pour préparer l'hebdo et on pouvait pas se concentrer. Trop de bruit. Sorti le 22 novembre sur PC, PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et Xbox One.
Tant d'occasions manquées de dire partout. Hein.
Partout.
C'est vrai.
C'était les 30 ans de la licence, donc 7 jeux ressortent sur les plateformes du Jurassic Park, de la NES à Jurassic Park Rampage Edition sur la Mega Drive. Ensuite du simili rétro avec Ninja Isen, ou au moins une grosse inspiration, des ninjas, des lasers, des néons.
Là on revient sur du Médoc, j'ai l'impression.
Donc c'est par Asteroid J et ça promet tout ça et plus. Ça va vite, ça va très vite, et c'est sorti le 23 novembre dernier sur Steam et ça arrive en 2024 sur Switch.
Ça marche.
Ensuite, Valfaris, encore dans le pixel, avec du pixel même un peu crados, avec une suite surprise pour l'action platformer Valfaris. Bah là, c'est Valfaris Megatarion, et qui se transforme pour le coup en shoot them up en 2,5D. C'est sorti le 21 novembre, et c'est dispo sur toutes les plateformes.
Yes.
Et enfin, un jeu sur lequel Gotose a pu s'essayer aussi cette semaine, et qu'il a adoré.
Ouais, il a l'air d'avoir vachement accroché.
Ouais, carrément, ça tweet, 15 000 tweets derrière et tout. Le gars s'arrête pas. Le Metroidvania, le Worldless. Un Metroidvania céleste avec du platformer et des combats au tour par tour. C'est créé par No Name Studio et c'est dispo sur toutes les plateformes.
Yes.
Depuis le 20 novembre.
Il y a une démo disponible,
c'est
ça,
accessible
Steam Fest. Ouais.
Depuis quand, là, les deux derniers jeux que tu as évoqués, quand ils sont disponibles?
Alors, Valfaris Megatarion, c'est le 21 novembre.
D'accord.
On est le 23.
Et Worldless, là?
Le 20.
D'accord. Donc, j'aurais pu streamer ça hier.
T'aurais pu streamer ça hier, effectivement.
Alors que je me suis galéré à streamer Stargate SG Explorer.
Je suis sûr que c'était incroyable.
C'était... J'y ai joué 20 minutes.
Yes.
Et t'as coupé le stream au bout de 20 minutes?
Non, j'ai changé de jeu. J'ai switché sur un jeu, donc j'aurai peut-être le temps de parler quelques minutes tout à l'heure.
Oui, on va en parler très bientôt, là, parce que là, on va faire un petit peu le tour, comme d'habitude, des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas forcément les jeux du moment, parce que, Atomium, toi, tu vas nous parler, je crois, de FF.
Ah ouais, moi, je suis sur un truc. C'est compliqué. En fait, actuellement, il faut savoir qu'il y a des actus pour FF14.
14, notamment ouais. une avec une histoire de raid machin, qui mm-hmm. rappelle un FF11.
Okay.
Et là, idée de génie, je vais lancer le jeu pour voir ce que c'était, parce que je m'en rappelle avoir joué à ça vite fait il y a longtemps. Ouais. Et
en fait, FF11, on parle d'un jeu de 2002, hein,
un jeu horrible.
Du premier MMO Final Fantasy de 2002.
Exactement, qui d'ailleurs, rappelons-le, est sorti avant le 10, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça oui, se ressent sur certains trucs, parce que, ouais, il y a eu une histoire de retard, machin. Ouais. Et enfin, du moins au Japon. Et en tout cas, ouais, c'est un jeu qui est bizarre parce qu'il est pas du tout accueillant. Je le conseille pas du tout, hein, franchement, on a eu là-dessus. En plus, enfin, aujourd'hui.
Mais il y a des serveurs, enfin, je
mais comprends oui, pas. Mais oui, il coûte 40 balles ou 30 balles, je sais plus, et tu payes 13 euros par mois pour les jouer, tu vois.
C'est assez incroyable qu'ils aient gardé ce modèle économique.
Ah, vous avez mis les images. Incroyable.
Ouais, bah oui.
Donc,
qui sont là les images de la. Ouais. Du, je crois que on
c'est,
est sur une extension. Enfin, c'est surtout que c'est une extension récente.
Ah, d'accord.
C'est une vidéo officielle, hein, donc a priori, c'est,
ah,
pas okay, modé,
okay, donc c'est pas modé.
Mais c'est pas du tout la tête qu'avait ouais. le jeu à sa sortie.
Et en fait, c'est un jeu qui est pas du tout accueillant. Déjà, bah, pour le faire tourner aujourd'hui, ouais. Il faut utiliser des trucs un peu externes parce que sinon, tu l'as en qualité PS2, quoi. Et puis, ouais, en gros, en termes d'ergonomie, on fait plus ça aujourd'hui, quoi. Enfin,
ouais.
Je peux raconter un milliard d'anecdotes de à quel point ça allait pas. Mais par contre, le truc qui était intéressant et le pourquoi j'y allais, c'est que on est sur un jeu qui, quand même, a une proposition artistique,
ouais.
a un scénario, et ouais, non, finalement, c'est pas si mal que ça.
T'y vois quand même les bases du futur FF14 à l'époque de sa sortie, ou
alors,
non, pour toi, c'est vraiment dur de faire un lien entre les deux?
Alors, c'est impossible, parce okay. que c'est deux ouais. équipes extrêmement oui. différentes. Le premier 14,
avant Rennes Reborn,
c'était un peu ça, mais en ouais. moins bien. Ouais. Et là, en fait, ce qui est trop passionnant dans le jeu, si je peux détailler un petit peu, je sais pas combien
bien sûr,
temps, en fait.
Bah, vas-y, prends... Bon. Prends un peu de temps.
Tu me dis, tu me fais un signal.
Je te dis stop.
Ok. Et parce qu'en gros, c'était une philosophie de MMORPG où l'idée de départ, ça a été comment est-ce qu'on fait jouer les gens ensemble.
Ouais.
Et donc pour les faire jouer ensemble, eh bien, il faut que les gens aient besoin les uns des autres.
Ouais.
Et donc sur ce postulat, les jobs que tu vas retrouver sont des jobs qui ont chacun un rôle très particulier et qui va être nécessaire. Par exemple, historiquement, maintenant c'est bien différent, mais historiquement. La méthode pour se téléporter d'une zone à l'autre, c'était avoir un mage blanc.
Oui.
Et c'est le mage ouais. blanc qui t'amenait dans les villes, dans les différents spots. Ou alors, carrément, tu devais payer des mages blancs dans le jeu pour pouvoir ouais. faire tes déplacements.
Ah,
quoi.
Ouais.
Donc c'était obscur. Pareil, t'as des objets où tu vas pouvoir looter, par exemple, pour, je sais pas moi, avoir tes sub-jobs. C'est une quête importante. Ouais. Et cet objet, t'as un taux de drop qui est ridicule. Sauf s'il y a un voleur dans le groupe.
Okay,
et dans ce cas-là, ouais. le voleur va pouvoir choper l'objet, te looter et te le laisser. Et en gros, c'était que des mécaniques comme ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir ça. Parce qu'à une heure où aujourd'hui, on fait en sorte qu'FF14, tout le monde fasse un peu des dégâts, tout est plutôt simplifié, les mécaniques et tout ça, là, tout est obscur.
Et
quoi.
Que ça puisse être joué quasiment en solo, FF14, en réalité. Enfin, alors, tu as, des, tu ouais. as des outils de pick-up pour faire des groupes et tout ça, mais
oui, oui.
dans sa
solo
grande majorité.
Solo pour la quête principale.
Oui, 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 c'est ça.
Et ouais. FF11, par contre, maintenant, c'est, du coup, c'est pour ça aussi que j'y suis allé, parce que le courage m'est venu du fait qu'ils ont rajouté un système d'IA et un système de téléport, donc tout va beaucoup plus vite.
Okay.
Et puis, ce qui est pas si mal que ça aujourd'hui, c'est que, bon, les originaires du truc vont crier, mais
ouais.
il y a plein de mécaniques de farm qui n'étaient pas là avant pour accélérer le gain d'XP, okay. pour accélérer les loots. L'hôtel des ventes, c'est heureusement présent pour que tu puisses acheter tous les objets de quête, parce que sinon, c'est imbitable. Donc, en soi, c'est pas vraiment un jeu que je, ouais. je conseille. Et que voilà. Mais par contre, derrière, témoin de plein de choses. Et si j'y vais, bah, c'est pour préparer une vidéo sur le sujet qui, à mon avis, sera un peu enflammée. Parce que
d'accord.
Même si je souffre, j'y passe un ouais. moment mémorable.
Ouais, ok. FF World. Voilà. Il y a encore du monde dessus?
Non.
Ouais,
d'accord. Il est tout seul.
Non, mais je croise des gens de temps ouais. en temps qui sont very HL et tout ça. Mais entre ceux qui vont être là juste parce que, bon, bah voilà, c'est une habitude, mais très peu présents, ou alors les personnes qui, elles vont être plutôt là en farmant avec des scripts automatisés où en fait il n'y a même plus de jeu, c'est-à-dire que tu appuies sur play et le bonhomme il bouge tout seul ouais. et puis il va tuer en boucle des ennemis. Là. Bref, il n'y a pas tant de monde que ça, mais j'y okay. joue avec des amis et on se régale.
Ok, mais il y a un voilà. truc que je trouve fascinant dans les MMO désert.
Ouais,
les, explorer oui, les MMO désert, je trouve ça super cool.
Ça ouais. fait partie du script parce que ouais. effectivement, il y a un plaisir de fou à se dire qu'on est dans un truc massivement multijoueur.
Oui.
Où on est seul.
On est seul, ouais, c'est ça.
Il y a vraiment ce truc un peu ouais de d'urbex du jeu vidéo.
Ouais. C'est un peu comme le c'était quoi, c'est le PlayStation Home.
Mm-hmm.
Le ouais, truc à la fin qui était complètement désert et qu'ils ont fermé. Ça, un des grands regrets de ma vie de joueur, c'est de pas avoir pu être là à la fin du PlayStation Home, le voir partir
magique
dans des rues désertes. J'aurais bien aimé.
Ah, ça devait être. C'est spectaculaire.
Ouais, complètement. Mais dis-toi, tu t'en parlais juste avant là, tu joues à un autre jeu en ce moment. Alors rien à voir avec FF11 a priori.
Ouais.
On parle de
Astral Ascent.
Astral Ascent.
Ah yes, trop bien.
Astral Ascent. Je comprends, il est sorti il y a quelques jours, donc je comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas. Il y a un truc que je comprends pas.
Ouais, mais en fait, moi j'ai lu qu'un truc à propos de ce jeu, c'est des gens qui disent je comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas. Donc peut-être mettez-vous d'accord entre vous.
Mais ça va venir.
Et peaufiner un peu le discours. Oui, bah je pense que ça va venir, ouais. effectivement.
Parce que on est sur un jeu français déjà.
Ouais.
Un roguelite, pixel art. On est sur Hades en 2D. Donc Hades ouais. avec 2D.
Oui.
C'est ma vanne. C'est...
Oui, oui, moi, c'est pas la première fois que je l'entends.
Ouais, c'était une vanne, moi. J'avais...
Et donc... Mais
c'est
un régal à chaque fois.
Ouais.
Hein, pardon.
T'as ri la première fois.
Ouais, ouais, mais là aussi, là, je me retiens.
En fait, je passe ta calcul. Enfin, Hades avec 2D. Là, c'est Hades en 2D.
C'est ça, tu vois. Donc, c'est ça.
Non, non, la vanne est vraiment pas dégueulasse.
Et c'est un jeu qui est excellent, qui très clairement, je l'ai terminé hier soir, en fait, hier soir, je me suis fait un run juste avant de dormir,
ouais.
Et j'ai pu voir la fin, et ça c'est le boss de fin, ça. J'ai pu voir la fin, et très clairement, l'équipe a été nourrie aux animés, aux mangas, enfin je veux dire, ouais. la scène de fin, c'est un style de Kamehameha. Père okay, fils,
ouais.
C'est génial.
Kamehameha, père fils, le Kamehameha le plus puissant. Hein.
Le plus puissant,
bien sûr.
Le plus puissant. Et donc, Roguelite, 4 personnages jouables. On peut y jouer en coop, à deux, ouais. En local.
En local, ouais.
Et avec tout... Alors, je sais pas à toi si c'est ta cam ou toi, Kevin, mais avec toutes les progressions méta, tu fais ton run, tu reviens. C'est un plaisir
l'addiction,
d'ouvrir voilà, tes récompenses. Compléter. Voilà, avec la gestion à terme, un petit peu en mode quand t'arrives à la partie un peu endgame, possibilité de gérer la difficulté avec
oui,
tout
sûr,
un tas de modifiers, vous connaissez bien. Et donc, en termes de challenge, c'est puissant. En termes, le seul truc, peut-être, qu'on pourrait dire...
Oui, la scène qu'on a vue là, oui, effectivement. On a déjà vu ça dans quelques animés.
Ouais. qu'on pourrait dire, quand on regarde, par exemple, ces images... C'est peut-être au niveau de... Si on doit le comparer à Hades, il ne faut pas. Hein, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs. C'est que, autant Hades, au niveau de la DA, c'était quelque chose de très caractérisé. Il y avait quelque chose. Là, on
ça ne sortait pas de n'importe où aussi, hein, Hades. Ça sortait d'une boîte qui avait pour habitude de pousser des DA quand même très maîtrisées.
Tout à fait, tout à fait. Là, on peut peut-être avoir le sentiment d'avoir affaire à une DA un petit peu plus générique, un peu... Certains personnages peuvent donner l'impression que, oui, on est sur les bouquins, comment dessiner un manga, vous voyez ce genre de truc.
Il y a ce côté un petit peu manga non japonais.
Manga français.
Ouais, français.
Tout à fait. Mais très honnêtement, ça passe crème, ça passe cul ému.
C'est un gros oui, ben c'est une occasion comme une autre pour le
dire. Non, les game feels sont incroyables. Le principe d'affronter des zodiacs, les gardiens, donc qui t'empêchent de partir de cette planète prison, les tous zodiacs avec des armures d'or. Eh ben moi j'aime bien et vraiment je suis assez étonné qu'on n'en parle pas genre partout parce que c'est un super jeu.
Ok, Astral Ascent et c'est déjà disponible donc.
Ouais. Sur Switch, PC,
Steam,
PS5.
Toi tu vas voir. Tu raterais pas la prochaine
fois. Ça va se taper à la récré. Moi je vais parler rapidement, je vais faire très vite d'un jeu qui est sorti il y a deux jours, qui est sorti le 22 novembre et qui s'appelle Knuckle Sandwich. C'est un jeu qui est un peu lié à tout ce dont on va parler aujourd'hui puisque c'est un JRPG. On va en parler de ça. C'est pas japonais du tout, c'est un développeur australien qui s'appelle Andy Brophy qui a fait ça. Et on le voit déjà là sur les images, en fait, c'est... Donc ça prend le moule de la formule du JRPG, et plus précisément celle du JRPG à la Mother. Mother, Earthbound, c'est un jeu qui embrasse 100% l'étrangeté que peut pousser la série des Mother. Et donc tu contrôles un personnage, un jeune homme que tu nommeras au début du jeu, qui sait manifestement pas très bien écrire, comme on le voit là sur les images actuellement, et qui emménage à Bright Town ou Bright City, je sais plus, pour trouver un job. Et c'est vraiment ça part vraiment dans des directions assez imprévisibles pour que j'ai pas envie de les gâcher maintenant. Et je trouve ça très réussi. Pour le peu que j'ai vu actuellement, encore une fois, là, je l'ai lancé il n'y a pas si longtemps, je suis pas encore allé assez loin. J'ai eu le temps de voir qu'en fait, dans son système de combat, le jeu s'inspire donc beaucoup des Mother et tout, avec une implication du rythme. Ça, c'était le cas dans Mother 3. Il y avait cette notion d'appuyer au bon moment et de suivre un rythme pour faire plus de dégâts. Donc de Mother d'un côté, et aussi de, ça peut paraître étrange, mais de WarioWare. Parce que il y a tout un tas dans les différents combats qu'il y a, il y a tout un tas de mini-jeux qui apparaissent et qui te demandent soudainement de faire telle ou telle manip pour éviter des dégâts ou pour faire que sais-je encore. Et c'est, je trouve ça très réussi. Enfin, je suis vraiment très emballé par ce que j'ai vu pour l'instant. Maintenant, la question sera pour moi de voir si ça n'en fait pas trop, si ça arrive, parce que il faut. tu vois, il y en a beaucoup des héritiers des Mothers qui ont voulu se mettre dans ce créneau-là. Il y a les héritiers des Mothers à la Undertale qui sont finalement qui sont assez goofy, mais qui sont quand même qui ont un propos assez sérieux aussi à côté. Et il y a ceux qui font un peu n'importe quoi. Et peut y avoir un côté Camoulox, pas dans forcément le très bon sens du terme, c'est trop random quoi en fait. Et donc j'attends de voir la suite, mais le début me parle vraiment beaucoup. Et on se fait attaquer par des espèces de loubars, ça aussi, ça rappelle pas mal les Mothers. Voilà, donc c'est Knuckle Sandwich, c'est disponible uniquement sur PC, je crois.
Ça a l'air super propre.
Ouais, franchement, c'est très cool. Il y a juste un truc. Alors, ça se trouve, ça a été corrigé depuis, mais tu sens que c'est un jeu qui est fait. Je crois qu'il est littéralement fait par une personne. Alors, très possible que, comme souvent dans ces cas-là, quand on parle d'une personne, en réalité, c'est une personne qui peut être éventuellement aidée à la musique ou à la DA sur certains trucs. Ouais. Mais en tout cas, pour le développement, vraiment, c'est fait en tout cas en très petit comité a priori et donc oui, c'est un jeu qui est pas forcément, je crois qu'au début il est sorti, il était pas jouable sur Steam Deck par exemple parce qu'il est dispo sur Steam, il était pas non plus il y a pas le Steam Cloud avec, tu peux ta sauvegarde, tu peux pas la transférer, bon ça va peut-être arriver après, mais faut s'attendre à ce genre de petits trucs. On parle d'un jeu assez low-fi quoi dans l'idée, et voilà, Knuckle Sandwich c'est donc déjà disponible et c'est pas très cher parce qu'on parle d'un petit jeu, même si j'aime pas cette expression-là, on s'entend. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'actu. Il est temps d'arrêter de parler de jeux vidéo et de se mettre à parler plutôt de JRPG. On va donc parler de JRPG parce que j'avais envie, tout simplement. C'est une raison qui me semble suffisante.
C'est une très bonne raison.
On connaît quelqu'un qui a voulu parler d'e-sport et qui s'est pas privé, encore une fois.
Ah ouais.
Ça a l'air d'être la nouvelle règle de l'hebdo origami.
Tout le monde fait n'importe quoi.
Ça n'a aucun sens.
Ça va mal terminer cette histoire.
Ouais. Ça commence avec une demi-heure de retard. Ouais.
Qu'est-ce qu'il va nous faire, Valter, la prochaine fois, du coup?
Bah, il va parler, je sais pas, de jeux de...
De dinosaures.
Bah
voilà.
Ah, j'en serais alors dans ce cas-là.
J'en serais. C'est bien.
C'est ça. Mais donc, oui, on va parler de JRPG, enfin de RPG, de JRPG plus particulièrement parce que j'avais envie d'une part et parce que, en tant qu'observateur du jeu vidéo, ça m'arrive, je vais vous donner ma take. Ce sera le point de départ du truc. Et après, on en discutera. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Mais j'ai le sentiment qu'actuellement, le JRPG est un genre, si on le considère déjà comme un genre, on va en parler aussi, qui vit beaucoup par le rétro. C'est-à-dire que, pour résumer un petit peu ça, dans les sorties dans les sorties récentes et prochaines du JRPG, on parle d'une part de remake un peu dans tous les sens, récemment Star Ocean 2, Baton Kaitos, même le Mario RPG encore plus récent, donc on parle de ça d'un côté, et de l'autre de jeux qui émulent du vieux JRPG comme par exemple le nom m'échappe, Sea of Stars ou Chain Dicos effectivement. Donc voilà, ça me semble être quelque chose d'assez notable dans le JRPG. Et voilà, on va discuter un peu de tout ça. Il ne s'agit pas d'apporter une réponse à tout ça. On va se poser plus de questions qu'on va apporter de réponses, je pense. Mais on va parler un petit peu de tout ça entre nous. Et avant ça, il va s'agir un petit peu, à un moment donné, de définir le JRPG en tant que genre. C'est un gros sujet. On va s'y atteler juste après. Mais juste pour situer un peu qui parle autour de la table, j'aimerais vous demander à chacun votre tour. Par exemple, je vais commencer par toi, Kevin. Ton premier JRPG, qu'est-ce que c'était? Le premier dont tu te souviens?
Comme tu l'as un peu sous-entendu tout à l'heure, alors j'ai réfléchi et j'avoue que j'ai un peu de mal. Parce que je pense que j'ai découvert ça quand même assez tard. Ça doit jouer entre effectivement des premiers Pokémon Game Boy et peut-être FF7, mais ça doit être vers là quoi. 97,
on parle fin des années 90,
ou 99, un truc comme ça.
Okay. Et le dernier auquel tu as joué là?
Alors du coup c'est très très récent, j'ai fait le DLC de Tales of Arise, donc qui s'appelle Before the Dawn, je crois, qui est sorti il y a une dizaine de jours maintenant. Sais pas si je développe un tout petit peu, mais en tout cas c'est le tout dernier.
Situer,
c'est celui-là.
Je précise d'ailleurs évidemment que c'est pas une question de légitimité ou quoi. Si on dit que le premier JRPG c'est un truc, c'est pas du tout pour ça, c'est juste pour voir un peu d'où on
venir.
On va se faire virer du plateau
sur la table. Quitte ce plateau. Non, bien sûr. Mehdi, tant qu'on est de ce côté, toi ton premier JRPG, tu en souviens?
À chaque fois j'hésite entre Wise, pardon.
Wiseu. Ouais,
Wise,
voilà.
C'est sur Master System.
Panique pas, c'est un petit truc qu'on fait souvent.
Ah ouais, là je l'ai pas là. OK.
Et donc Is et Fantasy Star.
Et Phantasy Star le premier.
Ah, ouais, Sega Team, okay. En fait.
Hein, ouais, complètement.
Je vois, je vois.
Un énorme du côté des gagnants. De toute façon.
Ouais, c'est ça. L'histoire l'a montré. Bien sûr.
Oui, non, mais après, bon, c'est pas le sujet, là.
C'est pas le sujet, c'est pas le sujet.
Bon, et donc là, on parle plutôt de fin des années 80, du coup.
Ouais, si complètement.
C'est ça. Et le dernier auquel t'as joué, JRPG.
Dernier JRPG.
Je peux répondre pour toi si tu veux.
Alors, non, non, parce que je jouais aussi avec mes enfants à Sea of Stars.
Ah oui, ok.
Mais ça va être un des enjeux de la discussion.
Ouais.
Mais autrement, si tu veux une réponse claire, pas indiscutable, ouais. Le remake de Star Ocean 2.
Dont tu étais venu nous parler il y a deux semaines ici. Ouais. Héloïse, de ton côté, le premier JRPG?
Bah, tu sais ce que je t'avais répondu, que je m'y étais mise tout récemment, et j'ai réfléchi après.
Ouais.
Et en fait.
En fait, t'avais un truc un peu plus.
Bah oui, mais. Tu vois, mais ça, ce sera aussi un sujet de discussion.
À chaque fois, on dirait que tu vas me gronder quand tu fais ça.
Attention. Et non, c'est Pokémon Diamant, moi.
Bah, ok.
Bah oui, bah ouais, Pokémon Diamant. Et le dernier, en fait, là, je suis en train de jouer, du coup, je l'ai dit juste avant, à Persona 4.
Ok.
Donc, et ouais, pourquoi pas.
Bah, non,
surtout parce qu'il y a
sûr,
le 3, du coup,
bien sûr que pourquoi pas.
En février.
Évidemment.
Donc, je crois en février. Le Persona 3.
Le Persona 3 Reload. Ouais. Je ne sais plus exactement quelle est la date, mais c'est en début d'année prochaine.
Donc, ouais.
Ok. On voit donc déjà là que toi, tu as commencé le JRPG, a priori, un peu plus tard que nous. Et c'est aussi pour ça que.
Non, mais je tenais à ce que tu fais sur ce plateau. Et puis surtout, il y a eu un saut incroyable entre Pokémon et.
Où là, tu n'as plus retouché au genre pendant des années.
Ouais.
Et il a fallu attendre, tu disais, je crois, Persona 5. Hein, c'est ça, ouais.
Donc, 2019 pour m'y remettre.
Ouais.
Donc, bon, tu as 15 ans, quoi.
Ouais.
Juste 15 ans.
Ça marche. Et toi, enfin, Atomium?
Le premier Mystic Quest sur Super NES, parce que bah, c'était le Final Fantasy des gens qui étaient en Europe.
Ouais, c'est ça. Ouais,
donc, basiquement, ne parlant pas autre chose que le français, vu que j'étais tout petit.
Ouais.
Et c'était un jeu pas très bien, mais qui avait une musique incroyable, dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Et après, bah, du coup, dans les plus récents, j'en fais plusieurs en même temps, mais on va dire Comment Grandir.
Ah
parce
oui.
Que je suis retombé là-dedans, bah pareil pour les vidéos et tout ça.
Le premier Grandia du coup.
Ouais ouais, celui sur PS1 qui a été arraché dans son remaster, il est horrible son remaster sur Steam, c'est effroyable. Mais ouais, du coup dans le jeu qui est exceptionnel, enfin je l'avais déjà fait, c'est un de mes jeux préférés et c'est vrai que ouais bah ça marche encore très bien aujourd'hui.
Ouais.
L'écriture est très cool.
Beaucoup
mieux que ce que j'avais.
Un côté un peu léger je crois dans ce RPG.
Très bon enfant mais respectueux.
C'est l'aventure quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est la grande aventure. Et surtout, il y a un truc assez marrant, c'est que quand les personnages parlent entre eux, tout ça, tu les sens pas. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est léger, mais pas naïf.
Ouais, ok.
Enfin, c'est très agréable.
D'accord. Donc,
on voit. Le système de combat qui a.
Bien sûr. Épreuves, un truc très, très orienté action, avec très dynamique en tous les cas. Ouais. Donc, voilà, on voit à peu près où on en est sur le JRPG.
Et moi
ah oui, c'est vrai, je peux répondre. Moi, c'est vrai. Pardon, c'est vrai que je pense rarement à moi.
Tout a été écrit.
Bien sûr. C'est écrit. Moi, ce sera un peu comme toi Kevin pour le premier JRPG, j'ai joué à des JRPG plutôt qu'FF7, mais FF7 c'est le premier JRPG auquel j'ai joué de manière consciente, en me disant ok j'y joue et je kiffe vraiment, j'ai envie de le finir et tout ça. Avant ça, les JRPG, je tombais dessus chez des potes et en fait c'est une époque où moi j'avais plutôt envie de jeux au plaisir très immédiat de Mario où tu sautes sur des ennemis ou des trucs comme ça.
Donc, j'ai dit FF7 moi.
Ah, parce que t'avais dit non mais
c'est un lapsus.
Genre,
c'est le 9. En fait moi j'ai fait un robot.
Ah tu parlais du. Il me semblait avant.
Non, peut-être. Ouais. Non en fait je crois que j'ai fait le 9, 8, 7. En fait j'ai fait dans ce ordre-là. Mais c'est avec.
Okay.
On est quand même sur la même.
On est sur la même génération à peu près. Ouais c'est ça. Donc on parle de fin des années 90 si me concernant. Et le dernier en date, bah ce serait. Moi j'aurais tendance à considérer, mais on va en parler, que Knuckles Sandwich est plutôt un JRPG, donc ce serait ça. Parce que là, bah, ça y est, hein, on y arrive, il va falloir s'y mettre, désolé, mais il va falloir essayer de définir ce qu'est le JRPG.
Les devoirs.
Ouais, il va falloir un petit peu. Alors, on ne va pas forcément avoir une réponse définitive à ça, mais si on devait parler de, je ne sais pas, qui veut se lancer là-dessus, vous y allez quand vous voulez. Moi, je pense qu'on peut commencer en disant c'est un peu impensif maintenant, mais on sait que ça part d'une réinterprétation japonaise du Donjons et Dragons, du jeu de rôle papier américain, et des premiers jeux vidéo de rôle que sont Wizardry, Ultima, qui eux-mêmes s'inspirent de ça. Et c'est une réappropriation japonaise de ces thèmes-là, en réalité.
Ouais. Après, alors du coup, c'est vrai qu'il y a... Je me permets. Il y a plein de trucs qui se jouent, parce que comme tu dis, il y a un peu l'histoire des JRPG et des héritiers de cette époque-là. Et c'est vrai que bah, basiquement, on aurait envie de dire que c'est juste des jeux de rôle qui ont été faits au Japon.
Ouais. Dans un premier temps, c'est un peu ce que c'est en tous les cas.
Mais
Après, justement, c'est là où tu vois où c'est un peu tricky, c'est que du coup, qui est le plus JRPG entre FF16 et Knuckle Sandwich?
Oui, on va. qu'on va atterrir un petit peu hein, en se posant ces questions, mais dans un premier temps, en tous les cas, le JRPG est l'école japonaise du RPG, la réinterprétation japonaise du RPG.
Et du coup,
j'en profite, pardon, je te coupe deux secondes, pour renvoyer vers une vidéo de Tetril sur YouTube.
Très bien.
Tetril, qui est une personne que j'ai découvert récemment sur YouTube, dont je connaissais pas trop le travail, et qui a fait une vidéo récemment sur vraiment la question c'est quoi le JRPG et qui en parle très bien en à peu près une demi-heure si je me trompe pas.
Oui, allez voir Tetril, tout est bien.
Ouais.
Tout est vraiment très bien. Mais ouais, et après c'est vrai que ça s'est défini sur plein de choses qu'on revoit ensuite, notamment tout ce qui est les combats tour par tour, tout ce qui est justement aussi le côté peut-être un peu plus efficace du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on est dans une interprétation des règles de jeu de rôle classique qui se veut quand même beaucoup plus facile d'accès.
Oui.
Ce qu'on retrouve avec des Dragon Quest, des Final Fantasy pour les
premiers. Qui donc arrivent dans la fin des années 80 et sont les premiers gros succès du JRPG.
Et qui va emprunter après aussi un chemin un petit peu vers l'action. Donc là, tu parlais de Ys tout à l'heure, on peut en parler. Qui est considéré JRPG?
Ah oui.
Moi, je le mettrais dedans, Après, il y a les questions action RPG, JRPG.
Ouais,
dans la grande famille du JRPG.
On peut parler des sous-genres, etc. Il n'y a pas de problème, mais ça reste un JRPG. Ouais.
Je pense. Et il fait partie des fondateurs, même. Hein. Je crois que le premier Ys, il fait partie des anciens.
Le premier Ys, sur Master System.
Sur même PC, non?
Je crois que c'était sorti même sur PC à la base.
PC 88, un truc comme ça.
Complètement.
Donc après je sais du coup
Parce que en fait t'es parti là dessus c'est que c'est que donc effectivement on part de historiquement c'est des RPG faits au Japon dans fin début des années 80 jusqu'à fin des années 80 qui se réinspirent de du jeu de rôle papier américain mais en fait très vite il y a des espèces de des gimmicks qui se dessinent
des codes qui se
font petit à petit. Et si je dis JRPG, j'ai envie de poser la question à Héloïse d'abord, justement toi qui es peut-être moins coutumière du JRPG, si on te dit JRPG, tu penses à quoi spontanément comme code de jeu?
Comme code de jeu?
Qu'est-ce que tu vas trouver dans un JRPG?
Pour moi, c'est les systèmes de combat
qui
sont le plus représentatifs du JRPG. C'est en tout cas comme ça que je le perçois en tant que joueuse qui n'a pas connu l'âge d'or du JRPG. Et à chaque fois que j'ai eu affaire à ce JRPG et que j'ai pu m'y frotter, tester et voir si j'étais réceptive à tout ça. C'était généralement le système de combat que je retrouvais le plus et qui dans mon esprit de joueuse a vraiment formé le JRPG.
Je pense que tout le monde sera d'accord autour de cette table. Les combats en tous les cas ont une place assez prépondérante dans le JRPG, surtout par opposition au RPG,
CRPG qu'on appelle CRPG ou
RPG occidental, où souvent il y a des solutions pour éviter le combat. Dans le JRPG, généralement, on te dit non, tu vas combattre, et c'est une des parties très importantes de l'aventure.
Et en tant que joueuse du coup de RPG occidental, je dois me laisser moi quand même choisir au bout d'un moment.
Tu traces la route.
En
plus, je suis une personne qui est très pacifique. Voilà, j'aime pas du tout le conflit.
Je comprends, je suis comme toi, mais il y en a qui comprennent pas. Mais c'est une des caractéristiques du JRPG, c'est-à-dire que par opposition au CRPG, au bout d'un moment, le JRPG...
Par CRPG, je ne sais plus si on l'a dit, on entend computer RPG, et donc RPG plutôt occidental
ou même,
US.
Effectivement. Ouais. Dans ma tête, j'étais classique RPG, mais non.
Non, je crois que c'est computer.
Classique RPG, c'est les classiques.
Ouais, par exemple.
Mais dans les JRPG, c'est linéaire, t'as pas mille manières de résoudre les choses. Bien souvent, t'en as vraiment qu'une seule, et les écarts, t'es dans un couloir, en gros, de manière générale, tu suis une histoire, et ce qui est pas du tout ce qui était moins souvent le cas avec les CRPG.
Il y a quelque chose qui manifeste ça très vite généralement, c'est que les personnages principaux de JRPG sont prédéterminés.
Oui.
Il y a des exceptions à tout ce qu'on dit, bien sûr, dans les grandes lignes. Oui, bien sûr.
Il y a eu des inspirations des développeurs japonais sur les RPG occidentaux et vice versa. Mais oui, en règle générale, le personnage il est prédéterminé et ça va même jusqu'à bien souvent son build, où t'as beaucoup moins de liberté que dans d'autres jeux. À l'époque, les persos qui faisaient des level up, c'était déjà c'est pas toi qui mettais les points en force ou en magie, etc. On te le mettait, t'inquiète, on s'en occupe. Voilà, juste continue de jouer, grind, farm, et fais tes combats aléatoires, qui saoulent parce qu'ils sont trop nombreux.
Ah bah c'est un truc, ouais, c'est un truc important. Bon, on le disait, les combats sont importants dans le JRPG. Tu vois d'autres trucs, toi, Kevin, qui te viennent spontanément quand tu penses à JRPG?
Non, parce qu'en fait, plus j'y pense, plus je me rends compte que toute cette catégorisation, moi, ça fait très longtemps que j'essaye de ne plus trop y penser, de ne plus raisonner comme ça, parce que là, enfin, tout ce qu'on a listé, en fait, il y a eu plein de contre-exemples qui sont arrivés aussi spontanément. Donc, et puis, c'est Yoshida, non, qui en parlait récemment. Hein, je pense qu'on va en parler. Enfin,
non, non, mais vas-y, bien sûr.
Mais qui s'est
Yoshida,
un peu
offusqué. Yoshida, qui est le producteur sur FF16 et sur FF14 avant.
Voilà, qui s'est un peu offusqué. Et c'est vrai que j'avais jamais... Enfin, j'étais assez d'accord avec lui, en fait. Il a tout de suite vu là-dedans quelque chose d'assez péjoratif.
Le terme JRPG.
JRPG, parce qu'en fait, il y a quelque chose de... une sorte d'exotisme qu'on essaye d'apposer à ce terme. Alors qu'on le voit avec tous les exemples listés, c'est que c'est protéiforme, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose presque d'excluant qui arrive là-dedans. Donc moi, c'est vrai que j'ai du mal à résumer ça à une seule formule comme ça qui serait classique. Et de manière générale, de toute façon, la manière dans le jeu vidéo de compartimenter en genre, moi c'est quelque chose qui me fatigue assez vite. Donc je suis le pire invité pour parler de ça,
effectivement. Je m'en rends compte un peu tard. C'est un point de vue évidemment tout à fait normal et intéressant sur la question, mais de mon côté, j'ai tendance à considérer que les genres, en fait, c'est toujours des choses qu'on observe a posteriori et qui sont des choses qui sont intéressantes pour le public, en fait. Si des gens ont à un moment donné dit bah ça c'est du JRPG, c'est qu'ils ont vu assez de similitudes dans un truc pour juste, tu vois, se dire on voit un peu de quoi on parle.
Mais je pense que c'est très, enfin, en fait, on est complètement on a complètement dépassé ce stade-là, en fait, où on pouvait ce serait quoi les autres catégories à part RPG? Ce serait action. Je veux dire, quasiment tous les jeux sont action aujourd'hui. Tu vois, enfin, si on commence à raisonner de cette manière-là, j'en sors pas.
Je pense que c'est même un peu l'inverse. C'est pas tant le public, c'est plutôt la partie marketing qui va être intéressée par l'idée qu'il y ait une catégorisation. Oui. Parce que quand tu lances un Kickstarter, tu dis machin, comme les classiques JRPG, puis bim, c'est parti. Quoi. Ouais. Alors que c'est vrai que si tu parles juste RPG pour Chained Echoes, par exemple, ça l'enlève d'un certain public.
Ouais.
Et donc finalement, c'est plus
t'as
dans
un argument d'autorité derrière avec toutes les références que ça traîne aussi. Et,
non, exactement.
Et ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire,
comme Sea of Stars aussi.
Il y a manifestement, je pense, des gens dans le public qui se retrouvent dans le terme JRPG.
Ah oui, c'est sûr.
Et tout en comprenant ce que disait Yoshida dans l'interview, parce que lui disait qu'il y avait un côté vraiment péjoratif, c'était du JRPG par opposition au terme RPG tout court, alors qu'ils ont dit non, c'est du RPG.
Ouais, bien sûr.
Mais je pense que le JRPG, on l'emploie. Il me semble pas qu'en France ça a été très péjoratif le terme JRPG. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu de manière très péjorative.
Non, mais ça peut être presque l'effet inverse. Ça peut être une sorte de fétichisation assez bizarre.
C'est possible, effectivement.
Non, mais là où je voulais en venir, justement, enfin, je veux dire, je n'étais pas là que pour descendre
le sujet du débat.
Mais en fait, au niveau des mécaniques de jeu, c'est là où je pense que c'est protéiforme. Non, ça va plus être peut-être dans des choses. Ça va plus être sur le fond que sur la forme, en fait. On va retrouver peut-être une certaine DA, malgré tout, au niveau un style graphique qui va pouvoir se répercuter et qui, lui, pour le coup, va pouvoir outrepasser des genres et des catégories qui peuvent être la science-fiction, la fantasy, etc. Et peut-être aussi au niveau des valeurs, comme peut l'être le shonen, on va souvent retrouver
des valeurs véhiculées,
du neketsu, cette idée de se dépasser, et souvent
et de
aussi
tuer Dieu à la fin.
Exactement. C'est vraiment ce que j'allais dire, c'est-à-dire cette idée de blasphémer à terme, de renverser, de renverser quelque chose pour empêcher une fin du monde qui est quasiment une sorte de figure récurrente dans toutes ces aventures-là.
Bien sûr. Il y a un côté, tu parles de monde, et c'est vrai que moi, j'essaie de réfléchir un peu à ce que j'imaginais souvent autour du JRPG. Pour moi, c'est souvent plus que dans le CRPG, même si, on s'entend sur ces définitions, ce cloisonnement des genres, je le fais, mais on peut très bien décider de s'en foutre. C'est que le JRPG me paraît plus souvent global que le CRPG. Il y a une question d'échelle qui me paraît très importante.
Bah, ça vient aussi de D&D, où tu peux pas, dans toutes les parties de jeux de rôle, sauver le monde, en fait. Et du coup, ça va être vachement localisé aussi pour pouvoir donner différents décors et que les gens se s'ennuient pas, tout simplement. Donc, je pense que c'est aussi de ça que le CRPG tient, en fait, beaucoup encore à son ancêtre, à son aïeul, qui est le jeu de rôle papier où tu peux être beaucoup plus concentré sur un petit endroit et te dire bon bah ouais. Ça suffit quoi.
Mais parce que je pense qu'en fait vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi le JRPG a très vite fait une espèce d'opération de synthèse et presque de symbolique du RPG, c'est-à-dire a pris le RPG donc qui dans le CRPG encore aujourd'hui essaye d'émuler la sensation d'une partie de jeu de rôle papier
Baldur's Gate 3, Wizards of the Coast, directement, tu peux
baiser avec tout le monde parce que c'est ça Baldur's Gate 3, ça va, on sait très bien
que c'est pas vrai, c'est pas que ça,
t'as un problème,
c'est pas que ça,
c'est quand même pas mal ça.
Pourquoi t'es si loin, on est ensemble sur Baldur's Gate.
Il y a ça d'un côté dans le CRPG, le JRPG a très vite, j'ai l'impression, réduit ça à du symbole, a dit non mais va y avoir, même tu vois les villages, un village, on n'a pas, il y a une question d'échelle, voilà, qui va te dire, on va te montrer une planète entière, mais qui va pas du tout être à l'échelle. Les villes sont des concepts de villes plus que des villes réelles dans le JRPG. Et c'est quelque chose une direction dans laquelle le CRPG est beaucoup moins allé. Le CRPG va plutôt te dire, non, on va te mettre une seule ville, mais elle va être méga détaillée et tu vas pouvoir visiter toutes les maisons et tout ça. Donc ouais, moi j'ai l'impression que ce rapport à l'échelle et au symbolisme est important dans le JRPG aussi.
J'ai aussi l'impression, c'est presque, enfin pour aller aussi un peu dans ces sens-là, c'est presque le JRPG, c'est presque un formula show. C'est-à-dire avec tu vas voir ton héroïne ou ton héros soit amnésique soit avec un pendentif, va y avoir une
non mais c'est parfois vrai. Les deux hein.
Parfois les deux. Va y avoir le
Final Fantasy quand même.
la quête initiatique.
Non mais là par exemple Chrono Trigger, il a un pendentif, enfin il pique un pendentif.
Non mais voilà, le quête initiatique, prise de puissance. Ouais.
Oui, ce que disait un peu Kevin avant.
Ouais, c'est-à-dire, d'un point de vue gameplay, au bout d'un moment, juste avant le boss final, bon, tu vas avoir le véhicule ou le moyen de truc qui va te permettre d'aller voir les zones, le vaisseau qui va te permettre d'aller explorer les îles que tu voyais au loin, etc. C'est très caractéristique des RPG fin 90.
Oui, voilà, oui,
des JRPG, des JRPG fin 90. Mais en même temps, pardon, mais on parle des plus, enfin, c'est peut-être un peu trop subjectif, mais c'est aussi quand on dit JRPG et qu'on a un certain âge, c'est cette période qui était un petit peu, qui fait partie des périodes les plus riches et avec les jeux les plus marquants dans ce genre-là.
Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, effectivement, je pense que si on doit parler d'un âge d'or du JRPG, je mettrais ça à cheval entre la moitié des années 90 et la moitié des années 2000 à peu près, c'est peut-être ça. Un peu avant. On parle de ça, vous êtes d'accord avec ça, toi par exemple, Atomium ?
Ouais, carrément.
Si on doit parler d'âge d'or.
Après, je trouve que la proposition était quand même plus vaste que ça dès l'instant où on est passé à la 3D, et notamment, tu vois, avec des jeux comme Parasite Eve, des choses comme ça, où vraiment ça commence à essayer vraiment des choses, quoi.
Oui,
et,
c'est vrai.
Même au sein de chez Squaresoft. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aussi il y a un truc dans.
Il y avait Racing Lagoon aussi.
Alors, de Squaresoft. J'ai rejoué il n'y a pas longtemps, c'était horrible. Horrible. Scénariste de FF13, affreux.
Ouais. Bref, mais qui est donc un jeu de course RPG dans l'idée, enfin Squaresoft qui se tentait des.
Traduit en anglais, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, c'est un jeu, c'est, voilà.
C'est, assez
c'est une curiosité.
Pénible.
Voilà.
Ouais.
C'est plus une gemme, enfin un cachet qu'une gemme. Ouais. Bref. Mais donc, du coup, j'ai perdu le fil.
Excuse-moi.
Attends, t'inquiète.
Tu parlais des hybridations de genre un petit peu, enfin en tout cas des tentatives avec Parasite Eve et tout ça, qu'il y avait plus d'originalité dans les approches peut-être.
Je pense que la mémoire est un truc un peu compliqué parce que, évidemment, on se rappelle des jeux qui ont fait notre enfance et donc on voit aussi, tu parlais notamment du fait que le rétro trustait quand même pas mal à l'heure actuelle. Mm-hmm. Donc on pense à ces jeux pixel art, tour par tour, etc. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'en fait, quand tu fais vraiment l'état des lieux des ventes, il y avait énormément de propositions différentes aussi.
Oui, bien sûr.
Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui a eu effectivement ce qu'on appelle un peu son âge d'or et tout ça. Mais qui avait aussi une vraie force de diversité et quelque part qu'on retrouve encore un petit peu aujourd'hui, malgré tout.
C'est sûr, mais je pense que c'est lié, en fait, quand tu parles d'âge d'or, la diversité, elle vient sûrement du fait que, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est moins le cas aujourd'hui, à vue de nez comme ça.
Ouais.
Quand on parle de cet âge d'or, donc encore une fois, de 95 à 2000 plus. Ouais. On parle d'époque où les JRPG chez Square et Enix, parce qu'ils n'étaient pas encore... quoique début 2000, ils s'étaient mis ensemble.
C'était 2003.
Devient Square Enix. Qui sont des propositions à gros budget pour l'époque. Enfin, tu vois, il y a vraiment des locomotives du JRPG. Les FF à cette époque-là sortent à un rythme, mais qui n'a aucun sens. Entre 97 et entre 97 et 2002, t'as FF du 7 au 4, du 7 au 11. 11, oui. Ouais, mais qui a un méga projet quand même.
Bien sûr. Ah, oui, oui.
Et à côté de ça, ils ont eu le temps de faire aussi Chrono Cross, de faire
Vagrant Story.
De faire Vagrant Story. Enfin, non, mais tu vois, c'est un truc. C'est et après, on est passé à un moment où il a fallu attendre FF15 10 ans. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une espèce de foisonnement comme ça de propositions qui devait faciliter aussi et amener en dessous plein de propositions, parce que c'était un genre porteur. Je pense.
Mais je vois ce que tu veux dire sur le côté âge d'or, parce que effectivement c'était du triple A en fait.
Ouais.
Il y avait ce côté-là et c'était un genre majeur avec une formule qui était celle de l'époque. Mm. Mais le genre il a évolué. Et puis enfin, en fait, ce qui est rigolo aussi avec ce côté JRPG, c'est que bon, si on le traduit, c'est RPG japonais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des Souls par exemple?
J'avais prévu ma take.
Ouais, ouais. Ah bah,
Qu'est-ce qu'on fait de Nioh? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait?
Il m'a claqué tout maître.
Mais non, mais j'en sais rien.
Non, mais c'est complètement vrai. Parce qu'en fait, si tu regardes Elden Ring, c'est un JRPG qui a fait 20 millions de ventes, quoi.
Bah, ouais, mais pour moi, c'est pas. Si on doit parler du JRPG en tant que genre, Elden Ring n'est pas nécessairement un JRPG.
Donc en fait,
de la même manière en pixel art, ça aurait été un Secret of Mana, tu vois.
Ah non, parce qu'il y a des mécaniques quand même assez différentes, tu vois.
C'est un action RPG.
Différentes de quoi? Différentes
de 3D.
De cette période-là, en fait. Donc pour toi, on va dire que le JRPG, donc ça va être du tour par tour, forcément.
Bah non, parce que là il y a beaucoup de JRPG. On parle de Is qui est décédé,
les Tales of Is, les Star Ocean.
Non, mais je sais pas, parce que comme on cible vraiment cette période, ouais, ok, combat aléatoire.
Non, non, mais c'est-à-dire que je pense que tu vois, le fait qu'un jeu comme Sea of Stars se revendique du JRPG lui-même, hein, je veux dire, c'est eux qui disent Sea of Stars, Chained Ecos, ils disent regardez, on va faire du JRPG comme à l'époque, alors que c'est comme pas des jeux japonais. Ouais, non, mais après, c'est tout l'objet de cette conversation.
Oui, bien sûr.
Est-ce que le JRPG. Qu'on trouve justifié le fait de parler de JRPG en particulier ou pas, arrive à dépasser cet âge d'or là, vu que maintenant enfin tous les gens se revendiquent de tu vois et à la fois les petits studios qui disent bah voilà moi dans mon coin je vous ai fait un RPG un peu comme à l'époque, mais aussi
même Square Enix
qui a des développements entiers qui parlaient eux-mêmes qui ont
avec
dit avec
l'Octopath
et ça date d'un certain temps avec Bravely Default et tout ça et le Tokyo RPG Factory qui arrivait vraiment en disant vous vous souvenez de Chrono Trigger, on va vous redonner du Chrono Trigger, et ils ont filé à Yam Setsuna et tout le monde était très déçu, mais je veux dire tu vois ça vient aussi des gros pontes qui disent attendez, revenez s'il vous plaît, on fait encore du RPG comme
à l'époque. Mais tu vois, enfin, comme tu dis, pour moi c'est revenir à une époque, c'est pas tant revenir à un genre qui aurait des codes qui seraient figés à une période donnée, quoi. Parce que ça évolue. Et en fait, ce qui est aussi rigolo avec ça, c'est que si on prend vraiment l'exemple Final Fantasy, c'est que j'ai l'impression que cette discussion, genre, est-ce que c'est encore du JRPG, est-ce que c'est encore un Final Fantasy, c'est presque une question qu'on se pose tout le temps depuis plus de 20 ans, en fait. Déjà, le 10...
Je suis d'accord pour est-ce que c'est du Final Fantasy, parce que, bon, enfin, c'est une question à laquelle j'adhère pas, mais oui, tu sais, il y a plein de gens qui vont dire « c'est plus un FF, c'était pas ça, FF ». Pour le JRPG, moi, je m'étais jamais posé la question avant le 16.
Ah ouais?
Ah oui, vraiment.
Parce que, franchement, enfin, c'est des débats...
Moi, je parle des FF mainline, là. Tu vois,
franchement, dès le 10, quand on a dit que la TB a changé, il y a déjà eu ça. Le 12, qui a commencé à avoir des zones plus ouvertes, qui étaient moins, tu vois, moins dirigées.
J'ai presque le MMO dans certains...
Le 13, j'en parle pas. Le 15, encore moins. Donc, c'est quand même quelque chose... Enfin, il y a une sorte de gatekeeping... permanent,
oui, c'est sûr,
avec ce terme-là et cette série en particulier.
C'est la ligne un peu ténue que j'essayais de tenir là dans ce truc, c'est que je veux pas que ça passe pour du gatekeeping non plus. Il est pas du tout question de dire t'as le droit d'être du JRPG, t'as pas le droit d'en être. Enfin, tu vois, c'est pas ça. C'est juste que voilà, je trouve ça intéressant de constater assez de similitudes dans un groupe de jeux pour les nommer a posteriori d'une certaine manière. Maintenant, après. Tout ça, pour moi, les genres sont intéressants à partir du moment où on peut décider à tout moment de s'en foutre aussi. Et puis, c'est des jeux, les gens ils font ce qu'ils veulent.
Évidemment.
Fin d'émission, allez.
À la prochaine, salut, merci.
Non, mais oui, il faut bien comprendre que c'est pour for the sake of the discussion, parce que autrement.
Non, mais parce qu'en fait, il y a un constat, c'est qu'il y a des gens qui parlent de JRPG et qui ont l'air de comprendre ce qu'ils entendent par là. Mais forcément, ça désigne quelque chose.
Mais il y a quelque chose presque d'ésotérique là-dedans.
Ouais, c'est ça. T'allais dire un truc, pardon.
Ouais, juste parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est un genre, tu vois, qui a quand même continué d'exister parce que, en fait, pas vraiment un genre et donc des RPG faits au Japon. Et ce qui se passe, c'est que c'est aussi cool de voir à quel moment les gens ont eu besoin de réinvoquer le terme. Parce que finalement, on n'a jamais dit à chaque fois qu'il y a un Nintendo, un nouveau JRPG pour un Fire Emblem, pour un Pokémon.
C'est
un Pokémon et un Fire Emblem, c'est pas la question, alors que fondamentalement c'est le cas.
Il y avait même des débats un peu de clocher nul sur Pokémon, est-ce que c'est vraiment un JRPG, je me souviens sur les forums à l'époque. Et là pareil, ça pour le coup, je comprends pas, parce que pour moi ça remplit toutes
les cases. Et tu vois, parce que j'y avais pas pensé, tu vois, de prime abord.
Oui, c'est vrai que c'est ce que tu disais.
Ça m'y a fait penser aussi, Et bref, tout ça pour dire que ouais, ça dépend aussi de à quel moment les gens ont besoin de ouais, réinvoquer un petit peu ce terme. Mais si tu regardes en fait aujourd'hui, effectivement, on pourrait se poser la question pour le Nier Automata, les machins. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir l'héritage de tout ça. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a quand même un vrai héritage. Tu le vois du côté des indés, on parlait d'Undertale tout à l'heure. Ouais. Je pense que vraiment, c'est ancré quand même dans une espèce de jus qui est quand même assez clairement identifié. Et là où je pense que c'est intéressant, c'est effectivement que, un peu ce que tu disais, c'est que ça invoque un truc en fait immédiatement en tête qui va appeler à des codes, des machins et tout ça. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de se limiter à ces codes-là? Je suis pas sûr.
Non, un truc qui en plus peut être attractif ou répulsif, c'est ça qui est
oui,
qui
oui, assez. Mais ce qui est enfin, enfin, attractif quand même, faut le dire. Ouais. Ça le vend en poupe.
Ouais, ouais, mais mal, mais tu vois, enfin moi je sais autour de moi, quelqu'un qui va entendre parler d'un jeu et s'il considère que c'est un JRPG, il va dire c'est pas pour moi. Tu vois,
en fait, on parle de Corentin Lamy.
Je pensais plus ça. Il y a le François en l'occurrence.
Ça, ouais.
Ah, y a une plus
alors que ma plus grande ambition est de faire en sorte que Oupi réalise que depuis le début en fait c'est un Weebos et que il a le JRPG au cœur depuis le début. C'est,
ah bah,
c'est
quand,
mon rêve.
Quand il l'a vu tout à l'heure la vidéo de Knuckle Sandwich, j'étais en mode mais oui, mais bah, bien sûr, oui.
Là,
bah
pour
oui.
Le coup, oui, bah moi c'est
ah bah, je sais par quel bout le prendre quand même.
Oui, clairement c'est pour lui ça.
Quand tu joues à Persona, est-ce que ça te donne envie d'en voir d'autres?
Mais bah oui, bah du coup, vu que j'avais fait le 5, et c'est le 5 qui m'a donné envie du coup de faire le 4.
Ouais.
Donc ouais, en fait, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi est-ce que c'est Persona qui m'a attrapé sur le JRPG? Parce que j'ai essayé pas une fois, pas deux fois, j'ai essayé plein de fois. Et c'est juste que...
Enfin, tu veux dire, pardon, t'as essayé plein de fois de du JRPG sans accrocher ou Persona
JRPG,
avant d'accrocher?
Non, du JRPG ah oui, d'accord, sans accrocher. Okay. Et pourquoi j'ai eu envie de jouer à Persona alors que j'avais abandonné les JRPG, ouais. Voilà. Et ben en fait, on en a discuté hier, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses où Persona est venu moderniser vachement le genre.
En tout cas, le 5 avait vraiment arrivé dans cette idée-là,
avec,
en tous les cas.
Avec Persona 5, c'est énormément modernisé. Sur l'UX, il y a un gros travail pour que ce soit digeste, juste parce que des fois, quand tu reprends du coup, des JRPG, c'est un peu compliqué. Et juste, ça répondait à plein de choses qui sont aussi présentes en fait, dans le RPG auquel j'ai l'habitude de jouer, qui est le CRPG. Et juste, ça m'a tenu. Juste, oh là là! Le démarrage, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter.
Persona 5 est particulièrement sujet à
et du coup,
début,
je me suis dit, c'est bon, c'est parti.
Le
ça
début,
va pareil.
C'est pas le pire. Il y a des excellents jeux qui mettent genre 15-20 heures.
Ouais. Mais le JRPG est peut-être le genre, le genre cliché de ça, voir au bout de 30 heures, ça devient
C'est ça.
Okay.
Je l'ai fini, il m'a tenu jusqu'au bout, du coup.
Et du coup, tu veux rester sur du Shin Megami Tensei et tout ça, ou est-ce que tu...
Pour le moment, je suis sur...
Te demandes si tu vas aller voir un peu d'autres choses.
Ah, je sais pas. Pour le moment, je suis sur les personnages, du coup, on va y aller doucement.
On a pour un petit moment.
Oui, c'est ça. C'est que de toute façon, t'as un peu de temps.
J'ai commencé le 4 il y a un moment, mais bon, on a lancé Origami et tout, donc j'ai galéré à trouver le temps.
On va faire un... C'est convenu, on va faire un petit détour. Le 4, faire un petit détour par Persona 4 Dance Single Night.
Trop bien.
Streamer ce truc, c'est incroyable.
Non, ouais, et puis quand t'as à côté Crusader Kings qui lance encore Crusader Kings 3 qui lance son petit
Crusader
Kings. C'est sur
on est sur du JRPG bizarre.
Non. Et puis Baldur's Egg, je suis perdu en ce moment.
Bah oui. Ouais, tu sais plus où de
trop de tête.
J'ai trop de gens en même temps.
Et du coup, toi qui découvres, parce que c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi, mais t'as plus ou moins déjà répondu là à ça, mais j'ai l'impression qu'en tant que quelqu'un, en tant que personne qui est allé vers le JRPG après son âge d'or dont on parlait là, il y a une difficulté supplémentaire à choper ses codes en fait.
Bah ouais, en fait, quand j'en discutais, quand je fais la comparaison avec des amis de mon âge qui sont à fond dans le JRPG, en fait le truc c'est est-ce que toi tu as joué pendant cette période d'âge d'or en fait quand t'étais gamin? Et bah moi c'était pas du tout un genre de jeu auquel j'étais exposée. Et du coup en fait il y a plein de manières de procéder, plein de manières d'amener certaines choses qui sont juste un peu moins digestes à ce moment-là en fait. Et c'est pour ça que j'ai autant de mal à m'y mettre de mon côté et que j'ai encore beaucoup de mal à m'y mettre et que c'est Persona qui est venu me chercher parce qu'il y a plein de choses que je connaissais. Est-ce que je suis pas ouverte d'esprit? Je suis pas très ouverte d'esprit.
Peut-être.
Sur le jeu.
Qui sait.
Non mais attends.
Non.
Je vais me poser la question.
Non mais c'est. En fait, moi, je posais cette question pour dire parce que il me semble, c'était pour aller dans ton sens. Il me semble que le JRPG et tout et discipline associée peut être très hermétique en fait quand tu encore une fois quand tu nous on a en commun le fait d'y avoir joué jeune à une époque, enfin plus ou moins jeune parce qu'on disait que nous finalement on l'a découvert
ado.
C'est ça. Mais c'est quand même des codes qu'on a absorbés.
Moi, j'étais enfant pendant cette période-là, donc c'est vrai que déjà, c'est pas un jeu sur lequel qui peut être très bavard.
Ouais.
T'es gamin, tu vas pas y aller directement. Et puis,
qu'il est quand même moins que le RPG papier généralement, enfin que le RPG hérité du papier.
Oui, mais il a évolué depuis. Il y a encore des RPG qui sont hyper bavards, mais quand tu vois Baldur's Gate, les dialogues ils durent pas très très longtemps la plupart du temps.
Bah non, ils baissent.
De toute façon, je dis salut.
En tout cas, les dialogues sont obligatoires, tu vois, ils sont pas très très bavards finalement.
Non, puis finalement. Tu peux les skipper surtout. Tu peux tout skipper, ce qui n'était pas le cas de plein de.
Ça me fait penser à un truc, ça. Je sais pas, t'allais peut-être dire un truc.
Ouais, en deux secondes. Ouais. Juste, ça t'embête pas.
Non, bien sûr que non. Imagine le mec horrible.
Non, mais j'avais pas une transition, on avançait sur un truc.
Au contraire, tu me fais chier depuis le début, mais bon, vas-y, le micro est ouvert.
Non, bien sûr, je t'en prie, au contraire.
Non, parce qu'il y a des propositions quand même pour les publics plus jeunes qui existent, enfin, qui ont existé au fil du temps. Je pense à tout ce qui est Mario RPG, Super Mario, Mario Superstar Saga, machin, ces trucs-là.
La première console Nintendo, c'était la Wii.
Et bah, il y avait déjà sur la DS, il y avait du RPG, Paper Mario qui faisait ça aussi. Les Pokémon, évidemment, je pense que quand même ça a fait beaucoup, Pokémon, pour beaucoup le premier. Bon, on parlait de Fire Emblem. Nintendo fait un taf de fou de toute façon là-dessus.
Oui.
Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'après, il y a la partie aussi dans le côté héritage JRPG ou JRPG affilié, quoi. Je pense qu'il faut pas sous-estimer la part de jeunes qui découvrent ça et le tour par tour avec justement tous les jeux de Toby Fox et associés, c'est-à-dire les one-shots, les trucs comme ça. Sachant qu'il y a un terreau de youtubeurs qui vraiment met l'accent là-dessus.
Oui,
communauté de fous, Farod et compagnie. Et en gros, nous, on le voit moins parce que je pense que ça nous évoque moins de choses, mais en fait, pour eux, c'est ça.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Regarde, machin, Undertale.
Et il n'y a pas besoin, ils n'ont pas besoin de connaître d'où ça vient pour estimer que c'est ça et puis c'est tout. Quoi.
Peut-être que la catégorie, tu vois, entre guillemets, qui se dessine, c'est peut-être pour rediriger aussi un peu ces gens-là qui ont fait ce truc. Et du coup, t'as le point d'accroche, tu vas dire.
Toi, Médoc, tu joues à un JRPG en ce moment avec tes enfants, c'est ça?
On joue aussi aux Stars. Aussi aux Stars, pardon. Mais tu parlais d'héritage. Je sais pas si on en parle tout de suite, mais effectivement, tous les autres genres de jeux.
Ah, bah c'est ça que
mis à regarder. Le JRPG, justement, j'aime bien cette mécanique. Le reste, ça me repousse, mais j'aime bien cette mécanique. Je vais la prendre, je vais la mettre dans mon jeu. Pour arriver là aujourd'hui à des jeux d'action, les God of War, les Prince of Persia,
le mode ultimate de FIFA.
Les modes carrière des NBA 2K ou des trucs comme ça. avec des morceaux de gameplay, d'idées de JRPG, avec cette notion de
je pense, de RPG rudimentaire,
oui,
qui du coup évoque le JRPG,
parce que encore une fois
le JRPG avait réduit ça à
des questions de points d'expérience et le fait d'allouer dans tes stats. Ça vient un petit peu aussi là.
Ouais, c'est ce qui fait que en fait on peut revenir là-dessus, là on en a parlé à plusieurs reprises. C'est ce qui fait, moi, que c'est la première fois avec FF16 que je me suis posé la question de est-ce que c'est du JRPG, même en fait du RPG tout court, même on pourrait enlever le J, hein, vraiment. C'est que je me suis dit, si c'en est, alors God of War l'est à mon sens encore plus. Par exemple, dans ses choix, dans les choix qui t'amènent à faire, tu vois, des choix de compétences à activer.
Mais d'ailleurs, il
n'y
avait pas une inspiration de Final Fantasy, du coup, pour God of War, il y avait.
Je ne sais pas si ça avait été revendiqué. Je ne saurais pas dire. En tout cas, il y a du RPG qui a infusé dans God of War, c'est sûr. Mais God of War et d'autres.
Partout.
Oui, voilà, c'est ça.
Assassin's Creed. Oui. Slash, je trouve que.
Oui.
C'est encore autre chose. Qui est aussi jeu de rôle, mais enfin, je trouve que c'est plus des mécaniques de hack and slash avec les loot, les machins, les raretés, tout ça qui sont venus là-dedans.
Mais disons que tu vois, FF16, moi je me retrouve à jouer à ce jeu-là, à y voir une espèce de beat'em all. Enfin, voilà, c'est pas un jugement de valeur là que
le
je fais. Je retrouve pas. Si le jeu m'avait plu, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un autre sujet, si le jeu m'avait plu, ça aurait été pour des raisons différentes de tous les autres Final Fantasy en tous les cas. Voilà, et donc c'est ça qui fait que je pense que
mais c'est un Final Fantasy.
C'est un Final Fantasy parce qu'il y a écrit
Final Fantasy
sur la boîte.
Pas
ça, vraiment.
Non, mais c'est ça.
Oui, ça, pour moi, il n'y a pas de. Ta série, t'en fais ce que tu veux, littéralement. Et d'ailleurs, Final Fantasy, c'est jamais privé, que ce soit dans ses épisodes canon ou. Enfin, canon peut-être, c'est mainline un peu moins, mais dans toutes ses propositions, Final Fantasy a fait plein de. tentatives de
bah oui, carrément, hein.
De choses différentes.
Oui, ouais. Ce qui est, enfin, il y a le fil rouge de la série, bah c'est son titre, ouais. En fait, ouais, c'est d'essayer de raconter. C'est un récit crépusculaire où ouais, tu ouais. essaies d'empêcher plus ou moins une apocalypse, quoi.
Oui.
C'est le titre de la série et chaque épisode essaye de proposer une lecture de cette thématique-là. C'est un peu comme une sorte d'appel à texte, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je vois ça comme ça, quoi. T'as un recueil de nouvelles où il y aurait la thématique centrale et qui imposerait un récit aux gens, ouais. Et les gens après font leur tambouille et racontent l'histoire qu'ils veulent avec les moyens et les leviers qu'ils ont envie au moment où ils font le jeu. Et enfin, après, pour la question, est-ce que c'est du JRPG ou pas
Non, mais après, on s'entend, hein, c'est pas une question cruciale pour son appréciation ou pas. Hein. Moi, à vrai dire, je m'en fous, c'est juste que, je t'ai dit, c'est plus en fait le constat que ça ne réveille pas chez moi les mêmes choses que n'importe quel autre JRPG. En fait.
C'est au moins un cas intéressant pour ça, parce qu'en fait, ça évoque des choses différentes. Et je pense que c'est ce genre de jeu qui justement brouille un peu les pistes, et c'est peut-être pas plus mal au final. Mais
bien
en tout cas,
oui,
c'est sûr et certain qu'il y a un côté très light de ces mécaniques-là, qui sont censées être héritées, mais qui finalement sont là quasiment comme un skin, hein, parce que fondamentalement, il n'y a pas d'histoire de progression.
Je trouve en tous les cas, ouais.
Et sans doute pour justifier aussi d'une présence dans un catalogue, dans des récompenses, des choses comme ça, parce que je pense que si ce jeu-là était sacré parmi les meilleurs jeux de l'action, ça aurait été un vrai problème pour eux en termes d'image.
Oui, ouais.
Donc, il y a un peu tout ce truc-là, à mon avis, qui fait un peu prison. Juste, je sais pas si tu voulais revenir sur la question de base qui était le côté est-ce que c'est trusté par le rétro, quoi.
Bah, en fait, pour moi, FF16 fait partie du constat général, c'est que le FF16, qui est un peu le fleuron, enfin, tu vois, en tout cas en termes d'image, de budget, de poids dans l'industrie du JRPG.
Ouais.
On peut se poser la question de est-ce que c'est encore du RPG, tu vois, d'une part, vu l'allègement des mécaniques, même si, bon, on n'est pas forcément d'accord avec ça, je veux dire, c'est une question qu'on a vu se poser à plusieurs reprises. Donc, il y a ça d'un côté, et de l'autre, il y a ces RPG qui font du rétro. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le genre encore une fois, moi, je viens pas pour apporter une réponse, je viens juste pour me... Moi, j'ai ma théorie là-dessus, mais après...
Mais donne ta théorie.
Je sais pas.
Non, mais moi je te poserais bien une question. Vas-y, je t'en prie.
Juste, je pense qu'il y a un truc quand même.
Et après, de toute façon, on va bientôt devoir conclure là-dessus.
Dans ce cas, il faut absolument que je le dise. N'oublions pas qu'il y a encore des exemples de fous, avec des prods de fous derrière.
Ouais.
On parlait de Nintendo. Bon, il y a quand même Xenoblade, qui est quand même très, très, très grand représentant. Qui lui, pour le coup, est vraiment apprécié pour ça. Héritage aussi d'une époque, parce que voilà, Xenogears, machin. Après, t'as tout ce qui va être quand même toute la partie Falcom. Alors, c'est pas des mêmes budgets, mais ça reste quand même des communautés très fidèles. Ça reste des jeux très nombreux.
Notamment les Trails in the Sky, tout ça qui continue à sortir.
Et Trails. T'as tout ce qui est donc la Vanillaware qui, quand même, aussi pareil, pose une brique où sortie de Sentinel, ça s'est très bien vendu. Je pense que le prochain, il va quand même sur un truc. Atlus, qui fait quand même un taf de fou aussi avec du coup les personnages, Shin Megami Tensei, machin. Bref.
Mais qui sort aussi beaucoup de remakes.
Tu vois, le prochain, il est costaud, ils ont fait des rééditions, ils refont des jeux.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, tout ça pour dire quoi pour dire que même si on regarde un petit peu avant, du côté DS, 3DS, c'est un vivier à RPG japonais absolument dingue. Radiant Historia, jouer à ça.
Bien sûr, trop bien.
Mais donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il est encore là, ce truc-là. Tu vois. Donc, il n'y a pas que du rétro, mais c'est vrai que le rétro, nous parle énormément, donc je pense qu'on a l'impression de voir que ça. Mais si tu va du côté des gens peut-être un peu plus jeunes ou peut-être qui s'intéressent de ça un peu plus loin, je pense pas qu'ils aient l'impression que c'est juste une espèce de
et puis pour les gens comme nous, effectivement, tout à fait, ce feeling, il peut aussi peut-être venir de cette perte de vitesse qu'on a observé, en tout cas que moi un certain nombre à avoir observé. Perte de vitesse.
Époque PS3 360.
Exactement,
du jeu vidéo japonais en règle générale.
Se rater de. Ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas su tirer ce qu'il fallait tirer, ce qui était intéressant avec, avec le passage sur ces consoles. Ouais. Et donc on a eu le sentiment que. Parce que c'était pauvre, c'était.
Il y avait
c'était,
des trucs quand même.
Bah, il y avait le Chopin no Yume, là, comment il s'appelle
compliqué ça quand même.
Il y avait Trusty Bell.
Un truc comme ça. Ouais. Il y avait eu le 1 qui était sympa, mais qui c'était Sakaguchi qui faisait ça.
Lost Odyssey
Exactement.
La story aussi qui était solide.
Voilà.
Il y avait Resonance of Fate avec des guns.
Resonance of Fate avec des chargeurs sur des chargeurs sur des guns. C'était puissant. Ouais. Mais on était tous là à l'époque. On écrivait avec Moguri dans les magazines. Et on était tous là. Dès qu'il y avait une annonce de ça, on était chaud. Mais parce que c'était très rare, c'était très maigre. C'était pas aussi foisonnant que fin des 90.
Et en fait, il y a un truc que je trouve intéressant. C'est que tu l'as dit un peu là juste avant. Pardon ?
Ni no Kuni.
Ni no Kuni, bien sûr.
Bien sûr. Alors, version DS.
Moi, c'est, oui, moi, ouais, c'est version DS. Voilà. Mais parce qu'il y a un truc que bien je trouve sûr. Intéressant, c'est que justement, pendant que le Japon et le JRPG par extension se cassaient un peu la gueule sur console de salon à l'époque, mm-hmm. PS3 360, en fait, tu l'as dit, le genre vivait sa meilleure vie sur 3DS.
Ouais, ouais, de fou. Hein. Mais même encore aujourd'hui.
Mais,
sur Switch.
Oui, et sur Switch.
Les ateliers, tout ça.
Mais en fait, à l'époque, si tu compares la 3DS et les consoles de salon, qu'est-ce qui fait que... Enfin, la DS plutôt que la 3DS, d'ailleurs, à cette époque. Mmh. En fait, c'est que sur DS, t'avais des JRPG des années 90. En termes de mise en scène, en termes de proposition, t'avais des JRPG qui étaient beaucoup plus dans les clous de ce que le genre avait fait avant que ce que t'avais sur console de salon. Et en fait, et c'est ça un peu ma take, c'est que si on considère le JRPG comme voilà, une réduction à l'idée d'image, de symbole et tout ça du RPG de base... Alors, c'est un genre qui, pour moi, est complètement ancré dans le symbolisme et dans une certaine forme de mise en scène. Et qui a dû répondre à une question, une fois qu'on n'était plus sur PlayStation, PlayStation 2, qu'on a été sur PS3, 362. Ok, en fait, maintenant, on va pouvoir faire des mondes énormes et tout ça.
C'est ça.
Et cette question d'échelle dont je parlais avant, pour moi, le genre a eu un truc de dire, attends, mais en fait, il faut qu'on change beaucoup de choses, en fait, mine de rien, dans notre approche classique du truc. Et c'est peut-être pour ça, à mon avis, bah, voilà, c'est ce que je me dis, il y a une espèce d'époque qui cristallise le moment où le JRPG a pu le mieux s'exprimer et qui fait que c'est ça qu'on reconvoque régulièrement. Je vous ai conviés tous aujourd'hui pour dire ça.
Et maintenant, non, non, le gars, non,
moi je t'écoute attentivement.
C'est super intéressant parce qu'il y a vraiment effectivement ce côté de format, de taille d'aventure en fait.
Ouais. Et
basiquement par rapport aux tailles de prod, quand tu vois FF7 Remake, clairement bah, on comprend que c'est un jeu qui ne pouvait pas se faire d'une seule traite
oui.
Pour des raisons évidentes de budget et tout ça. Et donc si tu veux la même proportion d'univers, tu peux pas. Et peut-être qu'après, c'est quelque chose qui va rester, tu vois, un peu comme on pourra jamais faire, je sais pas moi. Un film qui représentera à la perfection n'importe quel roman qui va être ultra descriptif
oui, bien
avec
sûr,
plein de
oui,
machin.
Bien
bah,
sûr.
Je pense que ça peut effectivement être très lié à ces codes-là.
Mmh, ouais, ouais. Et d'ailleurs, et peut-être qu'on va conclure là-dessus. Juste par curiosité, je vous ai posé la question de vos premiers JRPG et les derniers faits. Quels sont les JRPG là que vous attendez personnellement? Toi, par exemple, Mehdi.
Wow.
Je rappelle qu'il y a Yuden Chronicles par exemple qui sort bientôt.
C'était le projet.
C'est par les gens qui ont fait Suikoden.
Ouais, 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 Suikoden. Bah mets-le, celui-là. Ouais. Voilà. Mais autrement, non, j'ai pas.
Là, t'as plus trop la tête au JRPG.
En y pensant là, comme ça, JRPG, JRPG, JRPG. Non, il y a pas un Persona qui 6 qui. Ah, il y a le Tactics, le Persona Tactics.
Ah, qui est déjà sorti.
Il y a le Persona Fantasy.
Il y a un truc Fantasy, je sais pas comment ça s'appelle.
Le nouveau projet de la team.
Ah, le Refantasio, parce qu'il y a un nom incroyable.
Project Refantasio ouais. Avec Meguro la
oui.
musique
en fait la team ouais. Persona voilà. Se retrouve là-dessus yes. Alors que la team Persona 6
Soejima la DA
ou enfin, le prochain Vanillaware là on en parlait ouais. Tout ça j'aime bien
Unicorn un truc avec Unicorn je crois de temps. Je sais plus ça. Malheureusement
ah, je sais
bon,
plus.
Bref.
Et il a l'air trop bien.
Ouais, il a l'air très cool. Toi, Kevin, de ton côté, il y a.
Bah, effectivement, le Atlus, et puis, bah, mine de rien, Rebirth.
Rebirth.
Ouais. FF7 Rebirth. Ça fait quand même envie, même si. Et je trouve ça hyper intéressant.
Tu fais partie des gens qui ont apprécié le remake, hein, je
carrément,
crois.
Carrément, carrément. Et justement, en fait, c'est aussi ça qui est pour un peu boucler la boucle de tout ce débat, c'est que j'ai l'impression quand même on est justement dans quelque chose d'assez rétrograde avec le JRPG de. Comme quoi on voudrait figer une sorte d'image mentale
oui,
de ce
oui,
que
oui.
ça doit être et de toujours un peu reproduire ça et je trouve que ce que fait Square Enix avec le 16 et avec son 7 c'est à la fois c'est hyper malin parce que on a une modernité claire au niveau visuel, graphique, ouais. Technique, etc. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'ils sont permis de faire avec le 7.
Oui.
C'est-à-dire que justement, ils ont essayé de combattre le gatekeeping dans le jeu. Et j'ai trouvé ça trop.
Ah oui, tu
très,
parles
très
plus
fort.
De l'aspect scénaristique, là, c'est ben, ça de, ouais,
oui,
enfin,
oui.
De ce que le jeu raconte, tout ça.
Ouais, ouais justement, je trouve ça très malin, très audacieux aussi, très courageux. Et je suis curieux de voir jusqu'où ils vont aller dans ce côté palimpseste, en fait. De, on refait quelque chose en réécrivant un peu par-dessus, quitte à se permettre de dénaturer le produit ouais. de base. Et c'est quelque chose.
ouais, d'assez unique, je trouve, ouais, dans, ouais, dans, sûr, dans l'industrie. Et voilà, quand on
que peu peuvent se permettre, en fait. Bah, il faut déjà avoir le statut d'FF7 avant de.
C'est
de
ça, et, mais ça. Justement, et ouais. C'est peut-être encore plus courageux ouais, que de le faire avec FF7, ouais, parce ouais. que là, on est en train de déboulonner quelque chose. Quoi. Ouais. Donc, je trouve ça très fort. Et du coup, très, ouais, très curieux, très, très curieux juste parce que bah, c'est un ravissement, c'est un pur plaisir hein, en termes de fans et de. Juste, c'est que de l'amour, tu vois, quand ouais. tu vois le jeu tourner. Quoi. Et en même temps, curieux de voir où ils vont, jusqu'où ils vont aller.
Ouais, ok. Je partage cette grande curiosité à l'égard de Final Fantasy VII Rebirth. De ton côté, Héloïse, est-ce que tu attends du coup quelque chose en JRPG ou est-ce
bah,
que...
Persona 3, du coup.
Persona 3, ouais.
Voir
ouais.
Ce que ça va donner.
Ouais.
Parce que je sais pas si je m'y frotterais là, à l'heure actuelle, tu vois.
À l'original, tu veux
ouais,
dire
à l'original.
Ah oui, oui.
Donc, ouais, donc ouais. Ouais, non, je pense que j'irai pas. Donc, Persona 3, ouais. Faut que je finisse le 4. Mais oui. Mais oui. Mais
puis après, il y aura le 2 et le 2.
Mais on va avoir...
Ah, le 2, il est incroyable.
Ouais.
Enfin, les deux, même d'ailleurs.
Oui.
Parce que c'est aussi un truc du JRPG, on aurait pu dire ça. C'est ah, souvent pas aussi simple que.
C'est
ouais, c'est ça.
Donc, ouais, je vais remonter petit à petit comme ça au fil des
ça années. Ça marche. De ton côté, Atto ?
Il y en a plein. Du coup, ouais. Tout à l'heure, on parlait.
Enfin, t'en as cité déjà plusieurs. En
ouais, dit, oui, Unicorn et Overlord, c'était celui qu'on cherchait ouais. tout à l'heure, je voulais retrouver le nom. Non, mais je suis très curieux de Grand Blue Fantasy. Parce
oui.
que bah, ça a l'air d'avoir eu beaucoup de pognon. Donc, ouais. Fatalement, c'est quand même toujours curieux de voir ce genre de jeu avec du budget.
Effectivement.
Donc, je suis assez curieux. De voir.
Qui se décline en jeu de baston et RPG, un peu tout ça, Grand
ouais,
Blue Fantasy,
et
la licence.
Ça,
et Gacha avant ça,
licence,
c'est ça. Ouais, ouais.
Donc là, bon, ça a l'air au moins intéressant.
Ouais.
Après, j'avais un truc en tête et je l'ai plus. Si, évidemment, le prochain Yakuza.
Oui.
Le prochain
Yakuza,
Yakuza
8.
Ou, non, du coup, qui a un nom Like a Dragon, je sais pas quoi.
Oui, c'est ça, Like a Dragon Infinite Wealth.
Oui, c'est ça, ouais. Qui a l'air d'être le jeu des vacances. Ça
oui, c'est vrai.
Assez rafraîchissant, c'est le cas de le dire.
C'est vrai.
Et pour le coup, vraiment très impatient de voir ce que ça donnera, ouais. parce que celui d'avant. Bah déjà scénaristiquement ça m'avait beaucoup parlé pour ouais. les thématiques abordées tout ça et puis même la proposition on va dire de tour par tour et de tout ça dans les mini-jeux mm-hmm. Yakuza tout ça
pour jouer et... Animal Crossing
ah oui Animal Crossing trop bien si bref mais en tout cas ouais. Ouais, non, c'est, non, il a l'air trop cool ça,
okay.
Donc très impatient.
Très bien. Si vous aviez chacun cité un jeu rétro, j'aurais pu faire ah et ça n'a pas marché. Tout cette émission est un échec. On va donc arrêter de parler de JRPG. On va parler de jeux vidéo, mais pas que. Petit peu foiré ce lancement, Kevin Sicurel. Écoute, c'est pas très grave. On va effectivement parler de, enfin, on va parler d'autre chose que du jeu vidéo un petit peu. Et là, c'est mon petit plaisir. C'est le moment où je peux enfin dire à Sylvain que je n'ai pas salué en début d'émission. Je suis désolé. Ah ouais, j'oublie à chaque fois, hein, c'est terrible.
3 fois sur 6, hein.
Affreux bonhomme.
On avait plus le temps, c'est affreux bonhomme. C'est ça. Mais tu vas nous parler d'une série animée, je crois, aujourd'hui, de ton côté.
Je vais vous parler d'une série animée, effectivement, dont je ne passerai pas les images pour des raisons de droit, parce que ça strike vite quand on parle de Netflix. Et on parle de Netflix, moi j'ai vu passer, comme beaucoup d'entre vous peut-être, une série animée Scott Pilgrim,
ouais.
Take Off, donc sur Netflix la semaine dernière. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très cool. Je suis de ces gens, je pense que vous êtes nombreux à être, dans mon cas, à ne pas forcément avoir lu les comics de Scott Pilgrim et à seulement connaître le film en fait qui était passé, Scott Pilgrim versus the World, qui est sorti il y a 14
de
ans, je crois, de
Edgar
ça.
Wright, c'est ça. 14 ans, non.
Attends,
si, non,
pas loin.
Si. Wow.
Non, mais bien sûr, pas
longtemps.
Ouais, non, pardon. Ouais,
après, c'est Michael Cera,
je me
prends
la
main
de Cera. Il avait sa tête d'enfant.
Oui, non, c'est vrai, pardon, je me prends ce genre de coup de vieux. Donc, oui, Scott Pilgrim versus the World par Edgar Wright, il y a à l'époque, ouais.
Moi, je te dis ça parce que la série animée, au début, commence vraiment de manière... T'as pas vraiment envie d'y rentrer parce ouais. que, justement, tu te dis, bah, en fait, je connais l'histoire de Scott Pilgrim. J'ai déjà ouais. vu cette histoire, les ex-maléfiques, super, Matthew Patel et tout. Et en fait, quelque part dans le premier épisode, il y a un changement scénaristique. T'en branches
ah,
sur d'accord. le truc
okay.
et tu comprends qu'en fait, cette série animée n'est pas juste un passage à l'animation d'une histoire que tu connais déjà, mm-hmm. mais qui est plutôt une suite. Une suite dans laquelle, justement, ce que tu as vu, le film que tu as vu, le premier, Scott Pilgrim versus the World, est une espèce de rêve éveillé de ce que Scott aurait voulu qu'il se passe. Mais
d'accord.
en fait, c'est pas du tout ça qui lui est arrivé en vrai. C'est pas, c'est pas une happy end pour lui et Ramona Flowers et tout. Donc, tu retrouves ça avec déjà des destins qui sont différents. Moi, je trouve ça trop cool, mais surtout une animation qui défonce, c'est absolument incroyable. Tout ce qui est combat et tout, là les mecs se sont dit ok, c'est plus du film, c'est juste de l'animation, on peut se faire plaisir sur les effets spéciaux et se dire qu'on va faire exploser des stades entiers, des planètes et tout, et s'autoriser toutes les petites facilités de scénario et toutes les rêves de grandeur que tu peux pas avoir quand tu es en train de faire un film parce que le budget est trop serré. Là, ils se le sont offerts et franchement, c'était excellent à regarder. Je vous le conseille. C'est sorti la semaine dernière, je crois.
C'est complet.
8 épisodes ou un truc comme ça.
Oui, tu as toute la saison là qui est déjà disponible.
Toute la saison est disponible, ça prend 8 épisodes, si je dis pas de bêtises, ou 6, je sais plus, j'ai plus ça en tête. Et franchement, ça se regarde très bien, en une soirée, j'ai tout mangé.
Ok, on parle de Scott Pilgrim Takes Off, je crois, c'est ça hein, le titre de la série, et c'est sur Netflix, tu m'as dit.
Exactement,
okay.
Tu as tout bon.
Très bien, Scott Pilgrim en animé, donc toi, Ato, je crois, si je me trompe pas, vas nous parler d'un manga, c'est ça?
Ouais, alors je vais pas faire l'ancien, c'est-à-dire que je découvre un truc qui est un grand classique, mais que je ne connaissais pas.
Ok, ouais.
Et du coup, je sais plus si vous avez des images ou si tu veux que je...
On a l'image de la couverture du premier, mais tu peux le montrer là aussi.
Il fallait le montrer en objet. Du coup, donc c'est The Five Star Stories, avec un accent du terroir. En gros,
ça c'est le premier tome, si je me trompe pas, qu'on voit.
Exactement. Donc c'est édité en France chez Noébé. On a tous l'inquiétude de savoir si ça ira jusqu'au bout, parce qu'a priori, c'est un peu le problème de l'éditeur, on ne sait pas trop. Bref, l'espère.
Mais qu'il y a eu des choix intéressants d'édition, je trouve, cet éditeur.
Clairement. Et donc, pour l'œuvre, c'est une grande série de science-fiction qui, on va dire, est assez tentaculaire, avec de nombreux arcs, qui est dans un style, évidemment, très ancré dans le passé, années 90, machin. Ouais. Donc, c'était ces espèces de physionomies, on va dire, assez caractéristiques d'une époque aujourd'hui un peu révolue.
Ouais.
Et ce qui me passionne, en fait, dedans, c'est qu'il y a un peu ce sentiment de vertige qu'on peut retrouver dans des œuvres un peu comme Dune, par exemple, t'es projeté directement dans une histoire qui te semble immensissime, avec de suite beaucoup de concepts, beaucoup de noms, beaucoup de personnages, et en gros, on est dans un gros délire de méca, de guerre interstellaire, avec des puissances qui sont en place, tout ça, beaucoup de personnages à identifier. Il y a tout un système aussi de DIA qui va pouvoir prendre la forme d'androïdes pour contrôler les robots, etc.
Okay.
Et donc, si vous aimez ce genre de thématique, normalement, ça a peut-être de quoi vous plaire. Je sais pas, tu vois ce que c'est.
Oui, non, je vois pas du tout ce que c'est, mais j'adore ces thématiques.
ouais, non, vraiment. Enfin, moi, ça me rappelle un peu les époques où je découvrais ces trucs-là avec Escaflowne et compagnie, quoi.
Ouais.
Et donc, vraiment très très bonne trouvaille, dessin de ouf, scénar dur à accrocher, mais finalement qui se passe très bien. Donc, si jamais il y a des gens qui aiment ce genre de choses.
Tu sais combien de tomes sont sortis actuellement en France?
Je crois que c'est 4.
4, et tu sais combien il y en a en tout?
Je crois qu'au Japon, c'est un truc genre 17, un truc comme ça.
D'accord.
Tu sais, c'est un peu à la berserk, tu vois. C'est-à-dire que ça a commencé très tôt.
Ah, c'est encore en cours au Japon?
Je sais plus si c'est encore en cours, mais en tout cas, ça a mis très longtemps.
Ouais, d'accord.
Honnêtement, je vous dis, je vais pas faire l'ancien, je suis pas un spécialiste du tout. Mais juste, je suis tombé là-dessus et on me l'a conseillé. J'ai trouvé ça génial, donc je le conseille.
Five Star Stories, c'est ça?
Exactement.
Five Star Stories, voilà. Ok. Et moi aussi, j'ai une petite recommandation, alors qui est un petit peu, je triche un petit peu, c'est un petit peu du jeu vidéo.
C'est carrément du jeu vidéo.
Un livre qui parle de jeu vidéo.
Il y a presque, en fait, je sais pas trop comment le décrire. C'est quelque chose qui sort bientôt, que tout le monde va bientôt pouvoir découvrir. Je sais pas trop comment le décrire, je pense qu'il vaut mieux passer des images directement, ce sera beaucoup plus simple. Oh là là, super vieux jeu.
C'est incroyable.
Bah ouais, incroyable. Une émission donc dont on avait parlé. Hein. On peut enfin révéler ce générique.
J'en pouvais plus. Ça fait longtemps qu'il est prêt.
Super vieux jeu. On parle évidemment de l'émission à laquelle tu participes, Sylvain, qu'on avait annoncé pendant le financement participatif.
Vous aviez déjà dit le nom.
Non.
Ah.
Non.
Il faut s'arrêter dessus. On peut pas le dire sans rire. En fait.
Ah voilà.
Super vieux jeu.
C'est très mignon.
C'est trop bien.
On avait.
C'est à la fois très. Très enfantin, en même temps, c'est super vieux jeu.
Super vieux jeu au pluriel. Donc, comme il y a plein de vieux jeux.
Bien sûr.
Et une émission à laquelle tu participes, Sylvain, que tu animes, même d'ailleurs, en compagnie de. Enfin, tu l'animes et tu essayes de contenir Raphaël Lucas et Patrick Hélio.
C'est difficile parfois. Hein.
Ah oui, c'est pas facile. On a tourné le premier épisode, c'est pour ça qu'on.
On a tourné le premier épisode. Ouais. Si on est en train de vous faire ce teaser, c'est que normalement, sauf fin du monde, quelque part la semaine prochaine, vous devriez voir arriver le premier épisode de Super Vieux Jeu. Ouais. Est-ce que je vous donne le thème? Non, allez, on c'est va garder encore un peu de surprise.
Ça parlera, ça parlera de jeux un petit peu vieux, quoi.
Vieux, mais super.
Vieux, ça s'arrête à quel âge pour vous?
Ah, c'est bah, c'est une autre question. C'est ça.
C'est la grande question.
Bref. Alors moi ma take sur le rétro c'est que tu parles des jeux qui sont plus dans des consoles vendues dans le commerce actuellement.
Okay.
Moi ma take sur le rétro je l'ai faite sur Arte dans Jour de Plaie
et elle était excellente d'ailleurs. Frérot, juste encore pour Super Vieux Jeu, donc on est ravis de pouvoir vous montrer ça bientôt. Et là, c'est excellent métavie. Hein, je suis peut-être un peu trop impliqué, mais apparemment, c'est mon style quand je parle de quand je fais des recommandations. apparemment, c'est comme ça. Le gars est corrompu. Moi, je le trouve pas mal.
Ce serait pas tes potes aussi.
Ben, bah, c'est mes potes un peu qui ont fait, c'est mes potes un peu qui ont fait ce générique. Moi, je le trouve très cool. Et ça a été, il a été tourné. Et monté, réalisé tout ça par Emmerich Levardon qui nous avait déjà fait la vidéo d'annonce du Ulule pardon et qui travaillait à No Life avant et qui fait plein d'autres trucs, qui fait de la musique,
qui fait un type habillage de Turfus Streaming,
qui nous a fait la musique d'ailleurs.
Et qui nous a fait la musique, ça j'allais y venir, c'est Monsieur 2080. Quel Allez, plaisir, oh. Quel plaisir. Bah
qui
oui.
Ça
Et on a également, Kevin, eu le plaisir de tourner le générique qu'on voit là a été tourné chez MO5, évidemment, que l'on remercie, que l'on remercie beaucoup.
Dont on reconnaît les.
Laissé faire ce superbe tournage.
Ouais. On reconnaît les fameux locaux très fournis en matière de
des machines partout.
Y compris cette borne dont j'oublie toujours le nom du jeu illustré par cette borne. Mais
attends,
qui est...
Computer Space.
Ouais, c'est
la première borne commerciale jamais sortie. Et c'est fou qu'ils en aient un exemplaire dans les locaux de ME5.
C'est
1971, si je dis pas de bêtises.
Wow.
Quelque chose comme ça. Donc ouais, effectivement, on remercie vraiment tous les gens qu'on vient de citer. Emmerich 2080, on dirait qu'il s'appelle Emmerich 2080, comme André 3000. et l'association ME5, bien sûr, on a hâte de vous présenter cette émission. Et bah écoutez, je crois qu'on est sur une fin d'hebdo en ce qui nous concerne. Merci encore une fois beaucoup à vous d'être venus. Certains sont venus d'un peu plus loin que d'autres. Donc merci beaucoup.
Merci pour l'invitation, c'était trop cool.
Moi, je suis venu des bureaux en bas.
T'es venu des bureaux en bas quand même, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de marches, et donc je te remercie aussi.
J'ai pris l'ascenseur.
Je te remercie aussi pour ça. Merci à toi, Kevin, bien sûr, aussi d'être venu.
De rien, mon frère.
Ah oui, c'est vrai qu'on est, dans cette ère de notre vie.
Mais oui.
On est frères à tout jamais maintenant. Merci bien sûr Sylvain, encore une fois, à toi pour ton excellent travail et pour cette recommandation sur Scott Pilgrim cette fois-ci. Merci à la modération, comme d'habitude, qui fait un taf incroyable sur le chat et autour pour... Oui. Non mais j'allais y venir.
Ah d'accord, pardon.
Pardon. Je commence à avoir un regard très très menaçant. Je te gardais pour la fin.
Ah d'accord.
Ouais. Je préparais un petit truc. Bah c'est pas grave. Tu sais quoi, merci. Voilà, t'es content. Allez, j'ai plus envie. Non pardon, j'ai plus envie. Voilà, merci tout le monde. La modération c'était cool. Mais non, merci Médoc bien sûr.
Anytime.
Avec plaisir.
Ça t'arrive souvent d'oublier quelqu'un de l'équipe, en fait.
C'est vrai que tu m'avais.
Bah, moi, j'ai toujours pas eu mon merci aussi. Hein.
Bah, si, je t'ai dit merci d'avoir monté les marches. Alors, attendez, on va
les marches. Oh là là, non, ça tire les couvertures.
Je suis désolé là maintenant.
J'en veux encore.
Merci aussi à tous nos backers sur Ulule d'abord, puis sur nos soutiens sur Patreon et peut-être sur Twitch aussi également, les subs, tout ça. Merci à tous les gens, en tout cas, qui nous soutiennent et qui nous permettent de continuer à vous proposer ces émissions-là. Encore une fois, merci tout le monde. Ici, très bonne journée. Très bonne fin de journée à vous, pardon. À bientôt.
Bye, ciao.